Oui, c'est bon. Bon, on commence?
Oui.
Ça tourne.
Ça tourne. Ça tourne, générique. 1, 2, 3, 3, 2, 1.
4.
4. Bien, on va commencer, oui. Je vais devoir prendre mes lunettes. Bien. La vie influence les idées. C'est selon cette prémisse que j'ai préparé cette présentation du parcours et de quelques travaux du sociologue québécois Marcel Rioux. C'est d'ailleurs Rioux lui-même qui a formulé cette sentence lors d'un entretien accordé au sociologue Jules Châtel, que ce dernier rapporte dans le livre qu'il a consacré à Rioux intitulé « Entre l'utopie et la raison » publié en 1981. Titre qui évoque très bien la vie, comme on va le voir, de Marcel Rioux. Un ouvrage auquel je suis grandement redevable pour la préparation de cet exposé, parce qu'il contient vraiment une ligne d'informations, de réflexions sur son évolution, à la fois personnelle, intellectuelle, politique, dans le contexte plus général d'évolution de la société québécoise. D'ailleurs, nous le verrons, l'une et l'autre sont inséparables, d'où le double défi qui m'incombe aujourd'hui de vous donner des éléments éclairant à la fois la pensée de Rioux et le développement de la société québécoise, ce qui n'est pas une mince affaire. D'ailleurs, Rioux ne disait-il pas déjà dans un texte intitulé « Itinéraire sociologique » publié en 1974 dans la revue « Recherche sociographique » qu'il considérait, et je cite, « que témoigner de la sociologie, c'est éminemment témoigner de son temps, du temps qui court et de sa société. Parler de Durkheim, sans parler de la Troisième République, c'est parler d'un zombie. » Il convenait donc, suivant le vœu de Rioux, de suivre les grandes étapes de sa vie et de son parcours intellectuel, telles que Duchâtel les a retracées avec lui dans son livre. La trajectoire de Marcel Rioux est marquée par des coupures qui se matérialisent le plus souvent par des changements de contexte, mais qui ne sont pas essentiellement de nature géographique. Disons que chacune désigne un espace-temps privilégié de sa trajectoire. Duchâtel dira d'ailleurs de la vie de Rioux, et je cite, sa vie se déroule en une suite de séquences qui ont leur propre autonomie, mais qui s'articulent les unes aux autres. Des ruptures aussi se superposent à ces coupures. La première fut certainement celle avec sa famille, qui, sans prendre une forme dramatique, a certainement été capitale dans son évolution. Ensuite, il y a eu la rupture avec la religion, qui s'est produite dans un contexte clérical qui lui donne toute son importance. Il y eut aussi une rupture involontaire avec le Québec, imposée par le climat d'intolérance qui régnait sur certaines institutions. Puis ce fut la rupture avec les libéraux, les partis politiques, qui choisissaient trop évidemment la voie de la réforme. Enfin, il y a eu cette rupture relative avec le marxisme qui a tendance à devenir une orthodoxie. La somme de ces ruptures pourrait donner l'impression d'un cheminement erratique. Au contraire, elles sont le signe d'une évolution constante de cette aptitude vers le dépassement, vers l'avenir. Rioux ne reste pas accroché, il se distingue par cette faculté de changer. Ça met assez bien la table. Bien qu'à première vue, cette trajectoire, en effet, semble plutôt sinueuse, elle comporte une étrange continuité, une logique dans les partis pris, qu'ils soient d'ordre théorique ou politique. Rioux parlera lui-même de son évolution en ces termes, je cite, comme pour mon évolution théorique, mon évolution politique s'est déroulée et a été conditionnée par l'évolution des sociétés industrielles avancées, par l'évolution des pays socialistes, par l'évolution du Québec. Je vois une espèce de similitude entre mon évolution théorique et mon évolution politique. Par contre, l'évolution du Québec a plus d'importance pour mon évolution politique, alors que l'évolution des sociétés industrielles et du socialisme a plus d'importance pour mon évolution théorique. En ce qui concerne mes positions politiques actuelles, il parle alors des années 80, j'aurais pu me concentrer sur mon socialisme d'avant les années 60. Et cela aurait été ignoré que le pays a changé, que le socialisme a changé aussi. Donc, mon propos d'aujourd'hui n'est pas de juger du bien fondé des thèses de Rioux, ni d'établir une polémique entre ses travaux et ceux produits à son époque, mais de vous donner un aperçu de sa pensée, et surtout simplement de partager avec vous le goût de lire éventuellement ses travaux. D'ailleurs, ce type de lecture m'apparaît important pour quiconque souhaiterait séjourner un certain temps au Québec, pour des études ou pour le travail. Les écrits de Rioux constituent de bonnes clés pour comprendre la question du Québec. qui est d'ailleurs le titre de l'une de ses ouvrages, de l'un de ses ouvrages importants publié en 69, où il écrira en préface, et je cite, « Nul ne peut rester sur la clôture quand il s'agit de questions qui engagent la vie ou la mort de son pays. Un temps vient où il faut prendre publiquement parti. » Donc, pour mon exposé, dans un premier temps, je reviendrai brièvement sur les étapes marquantes de sa vie, mais aussi, c'est ce qui nous intéresse davantage ici, comment sa pensée se formera à travers elle. Puis, dans un second temps, je m'attarderai à quelques écrits dans lesquels il établit plus spécifiquement la conception de la sociologie critique, parmi lesquels, d'ailleurs, notre ouvrage figure son essai de sociologie critique publié en 1978. Et enfin, dans un dernier temps, je conclurai la présentation sur une note plus générale et rétrospective. Revenons d'abord sur les premiers pas de Rioux et le contexte qui l'a vu naître et grandir. Il s'agit vraiment d'un homme du 20e siècle, né en 1919 et décédé en 1992. Il est le premier fils d'une famille de 7 enfants et voit le jour en Mkoui, un village au centre de la vallée de Matapédia, dans le sud-est du Québec. Pour ceux qui ont une vue générale du Québec, c'est dans la péninsule gaspésienne et c'est vraiment au centre d'une vallée qui est entouré des monts Chic-Choc, etc. Donc, c'est très encavé et très, quand on dit éloigné, on pourrait dire même isolé. À l'heure actuelle, je pense que j'ai été voir, en Koui, il y a 7000 âmes, 7000 habitants, ce qui est quand même relativement peu. Son père est parmi les premiers Rioux à quitter l'agriculture pour devenir commerçant. Il est en fait propriétaire du magasin général du village. Donc, il est vraiment le centre du village et c'est un personnage assez haut en couleur, semble-t-il. Sa mère, c'est tout le contraire, elle est une femme très dévote pour qui la religion est le centre de sa vie. D'ailleurs, on dit, c'est peut-être une anecdote, on dit que finalement, Rioux était un peu une composite des deux. À la fois, un personnage très rassembleur, très sympathique, puis en même temps, un côté très, pas recueilli, mais austère et même qui s'isolait à l'occasion, notamment pour lire et écrire. Donc, il y avait ces deux facettes-là de sa famille. Donc, le contexte en enfance est celui d'un Québec rural, bon, sans doute, et traditionnel, très loin des villes et plus encore de la métropole. C'est assez important de dire ça parce que l'isolement est quand même significatif. En 1931, Rioux se retrouve pensionnaire au séminaire de Rimouski pour y suivre des études classées. C'est un peu, pour ceux qui suivaient des études à ce moment-là, c'est un peu la trajectoire habituelle. Sa mère a réussi à le faire accepter avec l'aide morale du curé de la paroisse, ce qui était très important à l'époque aussi. C'est une première coupure avec sa famille et son village où il ne retourne qu'à Noël ou aux grandes vacances. C'est le lot des pensionnaires. Entouré de jeunes privilégiés, donc des gens qui sont capables de se payer des études ou de fils de la terre recrutés par le curé de village pour accéder au sacerdoce, parce qu'il y avait quand même beaucoup de recrutement à l'époque à cet effet, et se trouve plongé dans un milieu clérical qu'il rejette très tôt, mais aussi initié à la vie intellectuelle, plus ou moins malgré lui. Ce qui marque surtout Rioux, c'est d'abord cette transition de la campagne à la ville. Rimouski est un petit village, une centaine de kilomètres dans Mkoui, donc dans la péninsule, mais le séminaire accueille des gens venus d'aussi loin que Québec, à 300 kilomètres. D'ailleurs, si je veux vous donner des proportions, dans les années 80, moi j'avais rencontré des personnes justement dans le bas du fleuve et qui avaient à ce moment-là au moins 80 ans, et au-delà de 80, et qui finalement n'étaient jamais venus à Montréal. Rimouski n'est pas très loin, qui n'était jamais allé à Rimouski, il était allé peut-être une ou deux fois dans la ville la plus proche, Rivière-du-Loup. Donc les gens étaient très, pas seulement éloignés, isolés, et l'horizon, d'ailleurs, ça va faire sourire Marc, ces gens-là, quand ils écoutaient Radio-Canada, ils pensaient que les gens qui présentaient les téléjournal et tout ça, ou les émissions, que c'était des Français, à cause de l'accent châtier, etc. Donc, vous voyez, puis ça, c'est finalement, je parle de ça, des années 80, là, si on se reporte des années 30, vous voyez, quand même, un contexte assez particulier. Donc, l'éloignement, c'est-à-dire l'accès, on s'entend que la circulation des personnes était vraiment moins importante que l'être aujourd'hui. Encore que finalement, aller en Gaspésie, contrairement à des gens qui débarquent, qui disent « moi, je vais aller passer le week-end en Gaspésie », oui, vous êtes ça, vous allez faire l'aller, puis le retour, puis ça va vous avoir pris le week-end. Donc, on n'a pas cette impression, quand on regarde la carte, oui, ça, mais les distances sont très, très importantes, très, très importantes. Donc, à la coupure avec le contexte familial et communautaire, ici, le mot communautaire, c'est plutôt la collectivité, hein, on s'entend, parce que le sens est peut-être moins chargé qu'ici en France, s'ajoute la rupture avec la religion. Ouais. Ça révolte finalement contre la religion, son rejet de la religion est d'autant plus radical qu'il aurait été victime. Puis ça, Duchatel en parle, et puis ça montre bien aussi qu'est-ce que c'était aussi les pensionnaires de cette époque. Victime d'une agression de la part d'un religieux. Donc, c'est à ce moment-là, dira-t-il, que naît son athéisme. Il y avait vraiment un rejet de la religion. Les arrivées d'Antique Délicat se canalisent progressivement dans son intérêt naissant pour la politique et surtout dans une quête intellectuelle qui le conduit à s'intéresser à quelques mouvements réformistes pour l'époque. D'abord, il porte un intérêt aux idées du Parti du Crédit Social. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui, quand même, est des idées qui ont fait eu cours au Québec et qui, jusque dans les années 80, en a encore un parti. Donc, c'est ce parti de crédit social qui a un côté très populiste, attractif, dont l'idéologie est en chef, l'idéologue en chef, c'est le major écossais Douglas, C.A. Douglas, qui tape sur les gros de la finance, les banquiers, les intérêts tirés de l'argent, etc. De plus, la théorie créditiste est fondée sur des théorèmes économiques qui semblent plaire aux étudiants, dont d'ailleurs, c'est le non-crédit social, vous savez, ça dérive du désir de faire que le but du système monétaire, donc le crédit, soit l'amélioration de la société. Donc, c'était quand même relativement réformiste par rapport à l'époque. À cette adhésion aux idées créditistes s'ajoute bientôt un intérêt pour l'action libérale nationale, dont le programme est relativement aussi progressiste pour le temps. Il comporte des mesures comme la nationalisation de l'électricité, des mesures antitrust, etc. Donc, longtemps, Rio a demeuré convaincu que si ces réformes avaient été entreprises à cette période, donc dans les années 30, donc la révolution tranquille amorcée à la fin, à partir des années 60, aurait été superflue. Parce que finalement, la révolution tranquille, ça a été un des points marquants, ça a été notamment la nationalisation de l'électricité. Donc, vous voyez que c'était déjà dans les années 30 qu'il y avait des gens qui soutenaient ces idées-là, et ça a repris certainement une trentaine d'années pour que cela puisse se réaliser. Mais on va comprendre pourquoi. Donc c'est ça aussi, c'est qu'au lieu des années 30, comme on disait, il adhère au programme de cette alliance, qui était alors alliée au Parti conservateur et à son chef Maurice Duplessis, donc afin d'accéder plus rapidement au pouvoir et voir ses réformes se réaliser. Mal lui en venait au prix, parce que lorsque Cerny arrive au pouvoir en 1936, il renie cette alliance, dont il avait étudié le programme afin de se faire élire, donc des réformes. Mais finalement, Duplessis va les renier. Donc, Rio considère alors que vraiment Duplessis est un traître, c'est un conservateur et en mèche avec le clergé. Donc, en plus d'être un athée, il va devenir aussi un anti-Duplessis acharné. Donc, sa transposition finalement de son athéisme et de son rejet de la religion va aussi se transposer au niveau politique, avec le rejet finalement du clergé, mais en accointance aussi avec le pouvoir politique de l'époque. Donc, son engagement politique se situe alors davantage au niveau des idées que de l'action, parce que finalement, recul dans les internats, les étudiants n'ont d'autres sources d'informations que les journaux qui entrent au collège. On peut penser qu'il n'y en a pas des milliers de masses. Et la parole des prêtres enseignants. L'un d'eux a rapporté d'un séjour en France des livres qui alimentent sa curiosité intellectuelle, dont la revue Esprit, fondée par Emmanuel Mounier et qui sera plus tard la source d'inspiration de la revue Cité Libre à laquelle Rio collabora. Donc, on va en reparler. Au terme du cours classique, il voudrait exercer la profession de journaliste. D'abord parce qu'il n'y a guère d'enseignement dans le champ des sciences sociales à l'époque, on s'entend, et aussi au fait qu'à ses yeux, les professions traditionnelles, comme le droit, la médecine ou la prêtrise, appartiennent au camp des exploiteurs. D'ailleurs, quand les gens faisaient leur cours classique, c'était soit effectivement le droit, la médecine, la prêtrise. D'ailleurs, souvent, dans des familles, on avait à la fois des gens qui étaient en droit ou en médecine, ou on désirait toujours avoir un prêtre. Hein? Ça peut toujours être proche de celui qui, supposément, orientait notre destinée à l'époque. Donc, le journaliste lui semble alors une condition pour atteindre ce que Rioux appelait à l'époque la vérité sur la société. Donc, la seconde coupure avec dans la vie de Rioux est marquée, comme la première fois, par le passage d'un lieu géographique à un autre. Cette fois, c'est vers Ottawa qu'il se dirige en 1939. Ottawa est dans une province juste à côté du Québec, l'Ontario. En 1939, pour étudier la philosophie chez les pères dominicains. Venu d'un petit village de province francophone, il se retrouve du jour au lendemain dans la capitale fédérale du pays, à large majorité anglophone. Et de plus en plus, la majorité anglophone, même si on dit que Ottawa est un peu le siège quand même le social du fonctionnariat, dans un pays supposément bilingue, on s'entend que Ottawa est même de plus en plus, contrairement à une certaine époque, de plus en plus anglophone et presque uniquement anglophone. Vu de notre époque, il est quand même ironique que ce jeune athée, terminant des études classiques aux frais du séminaire de Rimouski, soit boursier pour étudier la philosophie thomiste grâce à la recommandation de Mgr Courchesne, évêque du diocèse de Rimouski, connu pour son intégrisme. Donc, il y a des contradictions absolument incroyables au sein même de ces institutions. Malgré son athéisme, Rioux reconnaîtra avoir acquis dans ce milieu le goût de la recherche intellectuelle et surtout son penchant pour la théorie. Une autorité religieuse le pousse de nouveau à émigrer. En septembre 1940, à Montréal, cette fois, il s'inscrit à l'école des hautes études commerciales tout en suivant des cours du soir en philosophie. Il ne poursuit pas sa formation en gestion, mais termine plutôt ses études de philosophie et obtient de l'Université de Montréal l'équivalent d'une licence à la fin de 1941. Donc, au cours de l'année passée dans la capitale fédérale, grâce à des amis, il fait la connaissance de Marius Barbeau, donc considéré aujourd'hui comme le fondateur d'anthropologie canadienne et québécoise. Ce dernier fait d'abord son droit à l'Université Laval, puis a obtenu une bourse pour aller étudier l'anthropologie à Oxford, et par la suite à Paris avec Marcel Mauss du Collège de France. C'est très important de cette petite mention, parce que vous allez voir pour la suite. De retour au Canada, sa maison devient apparemment un important carrefour intellectuel. Et ça, c'est assez reconnu parce que c'est un personnage qui faisait, pour reprendre l'expression, un peu salon, où à la fois des intellectuels, des artistes, etc., pouvaient y passer, et à la fois anglophones et francophones. C'est un lieu vraiment carrefour. Cette rencontre avec Barbeau est d'autant plus décisive pour Rioux qu'il s'amourache de l'une de ses filles, Hélène, qui devient plus tard son épouse. Quand même important. Mais la maison en elle-même constitue un petit musée ethnographique et d'art contemporain. On peut y retrouver des tableaux du groupe des Sept, qui est un groupe important de la côte ouest américaine, de peintres. Puis ça côtoie des spécimens des arts amérindiens que finalement... dont les spécialistes, grosso modo, Barbeau. Barbeau aussi possède une bibliothèque garnie de livres de toutes sortes, parce que c'est quelqu'un qui accumule hein, et qui a un certain intérêt pour tout. Mais surtout, il y a une section quand même des ouvrages de Barbeau qui a une, finalement, qu'on considère avoir eu quand même une production prolifique sur l'intellectuel, vraiment important. Autre fait à ne pas négliger, le milieu de Marius Barbeau est aussi athée. Il aurait eu un peu de difficulté de se retrouver, comme à l'époque de son enfance et surtout de son adolescence, de se retrouver dans un milieu qui lui rappelait finalement l'emprise de la religion. Donc, c'est d'autant plus important pour vous. Ce contexte déterminera son orientation intellectuelle, en plus de l'influence marquée de Barbeau, qui ne parle que d'anthropologie, et découvre dans la bibliothèque de ce dernier des ouvrages de sociologie. Donc, il se met à la lecture de toute la collection de l'année sociologique, revue fondée par Durkheim, et qui publiait non seulement des textes inédits, mais aussi, comme le titre l'indique, des analyses de tout ce qui avait été produit à travers le monde en sociologie, en anthropologie, au cours de l'année écoulée. Ça appartient vraiment à une autre époque. Si on faisait la même chose aujourd'hui, qu'est-ce que ça deviendrait? C'est à cette occasion qu'il prend connaissance de l'essai sur le don écrit par Marcel Mauss et des grands noms de l'école de la sociologie française qui se distinguent par cette volonté de rendre compte de la pluralité des dimensions de la réalité sociale. C'est en fait à cette période de guerre que Rioux fait l'essentiel de son apprentissage intellectuel. Donc, comme on l'avait prévu, en janvier 42, Mademoiselle Brioux épouse Hélène Barbeau. Appelé sous les armes, il est réformé et ne participera pas pour la guerre qui fait rage en Europe. Faute de moyens, les nouveaux mariés s'établissent chez les Barbeaux jusqu'à la fin des hostilités. Rioux trouve un emploi au gouvernement fédéral, au ministère des Ressources et Approvisionnements, celui qui s'occupe du transport de matériel de guerre. C'est pour ça. Même si Rioux doit beaucoup à Barbeaux en ce qui concerne son initiation à l'anthropologie, il constate assez tôt que ce dernier a une approche essentiellement descriptive, alors que lui-même se sent beaucoup plus porté vers la théorie. Barbeaux veut reconnaître la vie et la culture des peuples anciens, reconstruire plutôt la vie et la culture des peuples anciens. C'est un collectionneur de faits, de contes, de légendes, de chansons et d'œuvres d'art. D'ailleurs, il est extrêmement reconnu à cet effet. À la limite, le présent ne l'intéresse pas. Quant à Rioux, ce sont ses cours de philosophie, mais surtout ses lectures de l'école française de sociologie, qui l'orientent vers la théorie. Déjà à cette époque, l'intérêt de Rioux est plus sociologique. Rioux distingue déjà la pensée ethnologique, qui définit lui-même comme étant essentiellement reconstructive et régressive, tout entière préoccupée par le problème des origines, alors que pour lui, la pensée sociologique se penche plutôt sur les phénomènes d'acculturation, s'interroge sur ce qu'ont devenu les cultures étudiées par l'ethnologie. Ce qui le captive, lui, c'est la vie contemporaine. D'ailleurs, Jules Duchâtel n'hésite pas à caractériser Rioux et son œuvre en le qualifiant d'anthropologue du présent. À cette période, Rioux se considère anarchiste du plan politique. C'est une anarchiste peu théorisée, une manière de libertarisme, une phase où l'on ne croit plus, disait-il, aux anciennes valeurs, sans pouvoir en définir de nouvelles de façon certaine. Toutefois, sa lecture de la revue Esprit, dans laquelle le directeur fondateur Emmanuel Mounier pose le problème du rapport entre catholicisme et communisme, détermine son orientation vers la gauche. De même que sa lecture du journal français 7 et de temps présent, qui sont de tendance catholique progressiste. Depuis le Front populaire en France, la guerre d'Espagne constitue déjà son horizon politique. Mais vite, il se retrouvera au confluent de diverses influences, libertaire, nationaliste, socialiste. Son socialisme se résume à peu de choses. Il y marque, par commentateur interposé grâce à un de ses amis communistes, à chaque élection, il vote pour la CCF, Cooperative Commonwealth Federation, un parti socialiste, ancêtre d'actuel nouveau parti démocratique, le NPD. Il se dit aussi nationaliste, mais réfractaire à tout nationalisme de droite auquel sont associées les élites traditionnelles et le clergé. En fait, son nationalisme est la traduction de la frustration de l'aliénation qu'il ressent à Ottawa. L'aliénation anglophone dans la fonction publique est évidente. Contrairement à son beau-père, qui est très intégré au milieu anglophone et qui est conséquemment du côté de l'Angleterre, Rioux est opposé à cette guerre qu'il considère être une guerre capitaliste. Son nationalisme est alors plus l'expression de son attachement existentiel au Québec qu'une position politique. Et ça, je pense que l'attachement existentiel au Québec est un terme extrêmement important pour la suite. On va le verra. En septembre 1946, une nouvelle coupure vient orienter le parcours de Marcel Rioux qui l'amène pour 2 ans à Paris. C'est un drôle. Comme plusieurs autres Québécois, et qui sera un point tournant de sa vie intellectuelle. Une bourse d'études en poche, elle se retrouve sur le bateau qui transporte la première cohorte de Québécois partant étudier en France depuis la fin de la guerre. Ils sont hébergés dès leur arrivée à la maison des étudiants canadiens de la cité universitaire, Boulevard Jourdan, à quelques années près de la venue de Matelan dans cette cité universitaire à l'époque. Lui, c'était dans les années 60. La maison canadienne fait figure de grand luxe, car à cette époque, non seulement il y a le chauffage, mais aussi des douches. Rioux y amène régulièrement des confrères de toute nationalité pour qu'ils puissent en profiter, et ça, je pense que ça appartient tout à fait à sa personnalité de rassembleur et de quelqu'un qui partage. Il faut toujours se rappeler qu'il vient d'un milieu éloigné, communautaire, où la communauté est très tissée serrée, comme on dit. Et ça, c'est un trait qui va le personnifier très bien. Contrastant avec la pénurie de produits essentiels, l'activité artistique et intellectuelle a repris son droit de cité. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance du surréaliste André Breton, qu'il reverra par la suite grâce au peintre et sculpteur Jean-Paul Riopel. Donc, il faut rappeler aussi que Marcel Rioux va garder des liens, va toujours entretenir des liens avec, des universitaires, des intellectuels, mais aussi avec beaucoup, beaucoup d'artistes. Une sensibilité de ce point de vue-là. Et on va certainement comprendre pourquoi. Donc, Jean-Paul Riopel, qui est l'un des signataires du manifeste du refus global et membre du groupe des automatistes, dont je reparlerai et qui est un mouvement important au Québec. Rioux s'inscrit au Musée de l'Homme, dont le grand patron est alors Paul Rivet. Sa vie d'étudiant se passe aux quatre coins de Paris, où il suit des cours dans les institutions différentes. À la Sorbonne, il écoute Mersenne, à l'Institut de géographie Griol, au Musée de l'Homme, Rivet, Lenartre, le roi Bourgouin, Cohen, au groupe de sociologie de Gurvitch, Hatchback, Lévy, Brun, etc. Donc, c'est une formation relativement pluraliste. Dans le milieu qu'il fréquente, l'influence de Durkheim et de l'école française de sociologie s'impose. Rioux se sent d'abord anthropologue, et cela n'importe peu pour ce courant qui ne fait pas de distinction alors entre l'anthropologie et la sociologie. Sur le plan théorique, il s'identifie fortement aux hésitations de Gurvitch entre Marx et Proudhon, entre Dostoïevski et Tolstoï. Avec Gurvitch, il se familiarise avec la dialectique, les notions d'idéologie, de classe sociale, qui vont être ses références par la suite. De tous les côtés, il est plongé dans un contexte laïque et socialiste, mais les options politiques de ses professeurs sont relativement indépendantes de l'exercice de leur profession. Rioux a entendu parler de Léon Blum, il l'a lu avant la guerre. Mais durant les années 46-48, ce dernier devient son point de référence politique. Dorénavant, Rioux se déclare vraiment socialiste. Interrogé par Jules Duchatel sur sa connaissance et ses rapports avec le Parti communiste français, Rioux répond qu'il est du côté de Blum. Parce qu'il est dans la filière de Rivet au Musée de l'Homme et qu'il est dans la tradition socialiste de Mauss. D'ailleurs, Rioux cherche à saisir la société comme fait social total, selon le principe de Mauss, auquel il restera fidèle. Il s'emploiera dès lors à concevoir en théorie la culture et la société comme formant un tout. Cette représentation théorique préfigure les notions de projet de société globale, grâce auxquelles il cherchera plus tard à expliquer la société québécoise. En 1948, ce n'est pas sans un certain regret qu'il quitte Paris pour revenir s'établir à Montréal. Ottawa. Jusqu'à présent, chaque coupure initie un cycle nouveau. Mais cette fois, il s'agit plutôt, dans une certaine mesure, d'un retour en arrière. En même temps que les débuts du période venant à la nourriture. Rioux doit trouver du travail. Il n'est pas facile de trouver un emploi d'anthropologue, car ce n'est pas encore une matière enseignée à l'université. La seule possibilité est le Musée national du Canada où son beau-père travaille depuis toujours. Alors donc, il revient un peu sur ses traces et puis avec plus ou moins de bonheur. Grâce à son beau-père, il redevient fonctionnaire du gouvernement fédéral, mais cette fois à titre de professionnel. Alors, il faut dire aussi qu'à cette époque, Ottawa fait office de refuge pour ceux qui s'opposent au régime de Duplessis. C'est très important. On était dans le milieu anglophone, mais en même temps, c'est une façon c'est un lieu de résistance. Barbeau, ayant fait des recherches de folklore au Québec, avait fait admettre au musée que la culture canadienne-française, comme on l'appelait à l'époque, puisse être aussi un objet d'étude au même titre que les cultures autochtones. C'est une porte ouverte pour les études ethnographiques de Rioux. Ainsi, à partir de 1948 et pendant les 11 années qui passera à l'emploi du Musée national, Rioux entreprend un cycle d'observation autour duquel il explorera un terrain, donc soit une communauté par an, pendant 11 ans. Son premier est l'île verte sur laquelle il publiera en 1954 une monographie intitulée « Description de la culture de l'île verte ». D'ailleurs, je l'ai fait lire à un étudiant qui faisait son doctorat chez nous, Antonin Sapero, et il avait trouvé vraiment un ouvrage très intéressant sur justement l'histoire communauté, si on peut dire communautaire, du Québec. Comme le souligne Rioux dans cette monographie, celle-ci constitue le premier maillon d'une série d'études sur le Québec, devant le conduire à une connaissance assez précise de la culture de cette entité ethnique. Les principaux éléments de son ambitieux programme de recherche se retrouvent dans cet énoncé, et je cite, « Le caractère archaïque de cette communauté de pêcheurs, son insularité et sa simplicité structurelle nous ont poussé à y commencer l'étude de la culture canadienne-française. En effet, nous avons cru qu'il fallait d'abord connaître les éléments les plus simples et les plus archaïques de cette culture, éléments qui nous permettraient ensuite d'évaluer les changements qui s'accomplissent dans les secteurs plus urbanisés de cette population. Nous avons voulu passer du simple au complexe et nous donner la chance d'inclure dans nos résultats une vue d'ensemble de ces phénomènes socioculturels qui se déroulent à l'intérieur de la société québécoise, envisagés comme une unité culturelle. Donc, on a ici quasiment le programme de ce que seront ces autres travaux. C'est-à-dire, toujours de partir du particulier à un ensemble, à la fois rechercher finalement dans le quotidien des définitions d'une société, comme il disait, plus globale. Finalement, à travers l'étude des diverses communautés, Rioux aspire effectivement à définir une culture québécoise comme la totalisation de plus petites unités de différents processus culturels. Il fait deux terrains chez les Iroquois à propos desquels il présente une thèse de maîtrise à l'Université de Montréal en 1951. Par la suite, il retourne au Québec quelques fois dans le pays acadien. Son dernier terrain sera celui des îles de la Madeleine. Bon. Il a très peu publié sur ses cycles d'observation, bien que ça a servi quand même dans ses autres écrits. Hein. On voit que c'est quand même fondamental dans son parcours. Donc, dans sa première monographie, Rioux prend le parti de ne pas théoriser. Donc, il réfère à ses lecteurs à des articles publiés ailleurs pour toute discussion en ce sens. La monographie de l'île verte est essentiellement descriptive. Donc, on est un peu dans la tradition de l'anthropologie et qu'on a essentiellement. Cependant, ce parti pris change dans sa deuxième monographie. Rioux tente de se démarquer des anthropologues de l'époque, dont la production de plusieurs d'entre eux est davantage axée sur le type des structures sociales ou qui ont tendance à ne pas distinguer société et culture. Pour sa part, il pense, je cite, que l'anthropologue qui étudie surtout les significations sous-jacentes à toute action et à toute relation humaine doit de son côté prendre en considération les phénomènes économiques et techniques, donc l'ordre technologique, et les phénomènes de structure sociale, donc l'ordre social, qui conditionnent le point de vue proprement culturel. Dans sa monographie « Surveillance », publiée en 1957, donc un deuxième terrain important, Rioux apporte des précisions utiles pour comprendre la complexité des processus reliés aux phénomènes culturels. Il se distingue ainsi dans la culture, éthos et idéologie. Je cite Rioux. L'éthos se dit la partie de la culture constituée par les valeurs fondamentales et dont la structure donne à chaque groupe sa physionomie distinctive. On entend par idéologie un système d'idées défendu par un segment, minorité d'une société. C'est un concept moins général que celui d'éthos. Lorsqu'il analyse le phénomène de l'industrialisation et de l'urbanisation, il tient compte de cette distinction. Il pense qu'on attribue à tort à l'éthos de la culture canadienne-française le fait de la résistance à ces phénomènes. Il persisterait une certaine confusion entre, d'un côté, l'éthos de la culture canadienne-française et, de l'autre, les valeurs et les attitudes de son élite qui constituent alors l'idéologie dominante. Rioux observe que, contrairement à cette pensée sociale du Canada français, les villages et les communautés ne résistent pas à l'industrialisation et l'urbanisation du Québec. Selon Rioux, la conquête anglaise a décapité le Canada de sa bourgeoisie française et pendant les 100 ans qui suivront, 1760, et je cite, « La religion servira puissamment, d'une part, à folkloriser la culture canadienne-française et contribuera, d'autre part, à empêcher cette culture de se tribaliser. » Que veut-il dire par là? En fait, la société canadienne-française va se replier sur ses communautés agricoles. En même temps, le clergé unira cette société. Il servira de dénominateur commun à toutes ces petites sociétés rurales, évitant la dispersion. Cette situation de fait est la base sur laquelle s'élabore une idéologie puissante qui se présente comme l'apologie de cette folk culture, c'est-à-dire de cette culture produite par de petites collectivités rurales et homogènes, vivant dans un certain isolement en regard des autres groupes. Après la Deuxième Guerre mondiale, on constate un écart très grand entre cette idéologie et la culture vécue par les gens. Rioux écrit d'ailleurs que la société canadienne-française est partagée entre, d'une part, un système idéal de valeurs nationalistes et chrétiennes, et d'autre part, des valeurs américaines typiquement matérialistes. C'est bon. Les principaux éléments de la pensée de Marcel Rioux se mettent alors en place. D'abord, sa préférence pour l'étude des valeurs culturelles est marquée, quoi qu'il en reconnaisse la nécessaire complémentarité avec l'analyse de la structure sociale. Ensuite, il établit une série de distinctions lui permettant d'étudier les éléments et les processus culturels qui se déploient dans la réalité sans se laisser obnubiler par un discours idéologique dominant. Enfin, il entreprend de définir les termes de cette idéologie du Québec traditionnel en montrant bien la distance de celle-ci avec les réalités culturelles. L'idéologie traditionnelle fera partie plus tard du triptyque, tu sais, qu'il produira pour caractériser le champ idéologique québécois. où on y retrouve bien sûr l'idéologie de conservation, l'idéologie traditionnelle de conservation, mais aussi l'idéologie de rattrapage et l'idéologie de dépassement. Depuis, il transpose au niveau théorique l'expérience de son passage personnel du monde rural au monde urbain. Cette préoccupation ressurgira plus tard dans des réflexions théoriques sur la vie quotidienne des Montréalais francophones, sur la fête populaire, sur les communautés autogérées. Finalement, il identifie un trait spécifique à la culture québécoise. Ce qui peut apparaître comme un résidu dans d'autres cultures constitue, selon lui, un trait de la culture québécoise, soit la sociabilité. La période qui commence en 1956 se caractérise par une nouvelle rupture dans la vie de Rioux qui l'incite à en s'engager dans la mêlée. Ses travaux d'une grande originalité sur la culture du Canada français lui méritent cette année-là l'attribution du prix Léo Parizeau de l'Association canadienne-française pour l'avancement de la science. Il est considéré comme un pionnier dans son domaine et il est reconnu enfin comme tel. À l'occasion de cette reconnaissance publique, le Dominicain Noël Malioux, qui est considéré comme le père de la psychologie au Québec et le premier à avoir enseigné la psychanalyse freudienne à l'université, il faut le faire, approche Rioux pour lui proposer le décanat des sciences sociales à l'Université de Montréal. C'est aussi vers la même époque que certains collègues de la faculté des sciences sociales de l'Université Laval manifestent leur intérêt de le voir se joindre à eux. Cela même qui commence à critiquer plus ouvertement les pouvoirs en place et les élites politiques religieuses réfractaires au changement social. Dans les deux cas, la hiérarchie cléricale fait opposition. Le prix est cher à payer pour ceux et celles qui sortent des rangs. En effet, Rioux s'illustre très tôt par ses déclarations publiques concernant ses idées socialistes et athées. Cela le disqualifie de facto aux yeux de l'Église qui contrôle l'entrée des universités canadiennes françaises au Québec. On rapporte même que Mgr Cabana, le premier chancelier de l'Université de Sherbrooke, aurait qualifié Rioux d'antéchrist. Que ce soit véridique ou non, cela en dit long sur le climat qui régnait et qui allait de nouveau interdire le séjour universitaire à celui qui cherchait à revenir dans son pays. C'est pas deux siècles. De 1958 à 1961, Rioux se résout alors à accepter un poste professeur de sociologie à l'Université Carleton, une université anglophone située dans la ville d'Ottawa. Rioux commence à cette période à s'interroger sur plusieurs aspects de son travail. Il se met à douter que l'anthropologie puisse donner toutes les réponses et commence à s'apercevoir des limites de l'étude des petites communautés. Le sentiment qu'il avait de pouvoir saisir de manière exhaustive ces unités culturelles se transforme en sentiment de limitation dans l'observation de la réalité plus vaste du Québec. Il veut trouver le moyen d'élargir son point de vue. C'est de là qu'il tient son parti pris contre la spécialisation. Enfin, il commence à se rendre compte que plusieurs de ses critiques de la société québécoise s'expliquent par l'état de colonisation. Il voit alors la nécessité de s'interroger plus spécifiquement sur le système politique au sens large. Quoi qu'il en soit, en 1956, il passe du statut d'anthropologue à celui d'intellectuel qui définit lui-même à l'époque comme étant nécessairement un homme engagé. Évidemment, l'obsession omniprésente de se débarrasser de Duplessis n'est pas étrangère à cet engagement. Il multiplie ses interventions sur la scène intellectuelle, politique et médiatique du Québec, en dépit du fait qu'il réside toujours du côté de la capitale fédérale. Il faut certainement rappeler que dans les années 50, trois mouvements significatifs se combinent pour former la véritable opposition au régime duplessiste. Ça, je trouve, c'est très important. C'est un mini cours accéléré sur les idéologies au Québec. Donc, il faut rappeler que dans les années 50, trois mouvements significatifs se combinent pour former la véritable opposition au régime duplessiste. Donc, le refus global, la revue Cité libre, et l'Institut canadien des affaires publiques. Ce n'est pas québécois, mais canadien, parce que c'est fédéral. Le refus global, c'est ce manifeste publié en 1948 et écrit par Paul-Émile Bourgeois, artiste peintre, faisant partie, comme les autres signataires du groupe, des automatistes, qui réunit 15 personnes, dont 8 hommes et 7 femmes. Une proportion rare à l'époque. Ce sont aussi bien des peintres, sculpteurs, danseurs, photographes, poètes ou comédiens. Ce manifeste remet en question les valeurs traditionnelles de la société québécoise et par conséquent, il est farouchement anticlérical. C'est un texte particulièrement cinglant sur l'état d'asservissement de la société canadienne-française. Je vous en cite un extrait pour vous en donner le ton. Un petit peuple serré de près où soutane restait les seuls dépositaires de la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale. Tenu à l'écart de l'évolution universelle de la pensée, pleine de risques et de dangers, éduqué sans mauvaise volonté, mais sans contrôle, dans le faux jugement des grands faits de l'histoire, quand l'ignorance complète est impraticable. Bourdieu. Suite à la publication du manifeste, celui-ci, Bourdieu, est congédié de son poste de professeur à l'école du Meuble. Il va s'exiler aux États-Unis, puis à Paris, où il décède en 1960, sur la rue Rousselet, quelque chose comme ça, à Paris, où il y avait son atelier. Les automatistes constituent un mouvement informel que l'on pourrait rapprocher des surréalistes en France et, donc, et de d'autres mouvements à travers le monde, et dont les idées et les œuvres auront de fortes résonances dans la société québécoise de l'époque, mais tout comme dans celle d'aujourd'hui. D'ailleurs, on se réfère beaucoup au refus global et aux idées de cette époque-là, encore aujourd'hui. En ce qui concerne la revue Cité Libre, fondée en 1950, elle fait aussi une large place aux critiques anticléricales des contributeurs de diverses allégeances idéologiques qui s'opposent à l'autoritarisme du gouvernement conservateur de Duplessis, dont le règne était stigmatisé sous les termes de la Grande Noirceur. Quand on parle de la période de la Grande Noirceur, on parle de cette période-là. Certains disent que c'était pas aussi noir que ça, mais certainement que c'était relativement sombre. Dès la première heure, Rioux devient un proche collaborateur de cette revue Cité Libre, bien qu'il ne fasse pas partie du comité de rédaction. Son athéisme et son sentiment national ne coïncident pas tout à fait avec celle du groupe éditorial, mais n'ayant pas l'esprit factionniste, hein, il a plutôt l'esprit stratégique, comme on le voit, le plus important était alors pour lui de combattre l'obscurantisme anglais. Au même moment, Rioux préside pendant 4 ans aux destinées de l'Institut canadien des affaires publiques. Il est appuyé par une majorité d'intellectuels, de syndicalistes ou de sympathisants libéraux, en somme, tous ceux qui s'opposent à Duplessis. L'Institut organise des colloques annuels qui réunissent un très grand nombre de personnes, donc où on discute d'un ensemble de sujets engagés à l'époque. La liberté, le tiers-monde, les avoirs de l'Église au Québec, etc. Donc on peut dire qu'avec le refus global, et Cité Libre, l'Institut contribue à la critique de la société traditionnelle telle qu'elle était vécue à l'époque. Il est important de dire ici quelques mots sur la revue Cité Libre, à laquelle collabore Marcel Rioux en 1960. Le texte de présentation du premier numéro de cette revue souligne fortement l'influence de la revue Esprit et de son directeur Manuel Mounier, que j'évoquais plus tôt. Hommage est rendu aussi à Léon Blum et à Harold Joseph Lasky. Cité Libre se définit comme étant la résistance. Elle vise à se situer entre le marxisme orthodoxe, donc elle se situe entre le marxisme orthodoxe, le capitalisme et le christianisme triomphant. C'est un joyeux problème. Ses références et ce programme ont eu lieu de plaire à lui, mais il est assez conscient des différences qui le séparent de ses amis libéraux. Parmi ceux-là se trouve Pierre-Elliott Trudeau, qui deviendra premier ministre du Canada de 1968 à 1979 et ensuite de 1980 à 1984. Trudeau avait d'ailleurs été un étudiant de Lasky à la London School of Economics. C'est pour ça que finalement, on a les références à la fois de Blum et de Lasky. Donc, Cité Libre aussi le lieu de l'élaboration de l'idéologie de rattrapage dont Trudeau trace les balises à travers sa conception de la démocratie anglo-saxonne et ses propositions pour une politique fonctionnelle de l'État. C'est par rapport à cette pensée à laquelle il adhère partiellement que Rioux prend progressivement une distance, réclamant qu'on l'invente une idéologie de dépassement. Donc, pas seulement une idéologie de rattrapage, mais une idéologie de dépassement. Le premier article d'importance de Rioux s'intitule « Remarques sur l'éducation secondaire et la culture canadienne-française ». Publié en 1953, cet article lui permet de stigmatiser le caractère réactionnaire de la culture canadienne-française, qui apparaît dominée par des valeurs sécuritaires. La culture traditionnelle semble donc figer le Québec dans un modèle immuable. Un pays où rien ne semble vouloir bouger, où l'on ignore les contradictions, où l'on nie le changement. Cet article s'inscrit donc dans la phase proprement critique de la culture canadienne-française, déformée par l'idéologie dominante clérico-nationaliste. Un texte publié plus tard, un peu plus tard, en 1955, apporte plus de nuances à cette première critique. Il s'agit de l'idéologie crise de conscience du Canada français. Non seulement Rioux apporte une explication au caractère réactionnaire de la culture canadienne-française dans le fait que le peuple québécois est minoritaire, mais il identifie dorénavant l'idéologie dominante, c'est-à-dire nationaliste, bourgeoise et cléricale, comme étant responsable de cet état de fait. Il accuse l'élite porteuse de cette idéologie d'avoir enfermé le prolétariat dans un univers bien étroit. C'est la première fois qu'il utilise le mot prolétariat. C'est justement à partir de ce texte qu'il introduit dans sa pensée des textes marxistes qui consistent à voir dans le prolétariat armé de la science du social un élément actif du changement. Alors, première trace. Deux observations s'imposent quant à la position de Rioux face au nationalisme. Et c'est important aussi pour nous de le faire, parce que je pense que ça permet de faire comprendre aussi le nationalisme québécois de surcroît. L'antinationalisme de Rioux des années 50 est alors essentiellement une opposition nationaliste de droite. Rioux n'abandonnera pas seulement, pour autant son sentiment national, mais il cite évidemment l'humanisme universaliste et pluraliste qui l'emporte à ce moment précis. D'ailleurs, le nationalisme qu'il défendra plus tard ne sera jamais replié sur lui-même et coupé du monde. D'un autre côté, il est intéressant de noter que Rioux commence à préconiser une alternative au nationalisme de droite et suggère des moyens d'action dans la dénonciation des postulats de cette idéologie. Il y a un élément d'action qui imprègne son texte comme aucun autre jusqu'à maintenant. À partir de 60, Rioux inaugure une chronique qui intitule de façon prémonitoire « Propos de parti pris ». De son côté, Trudeau développe la thèse que le Québec doit rattraper le modèle de démocratie anglo-saxonne. Contestant cette tendance, Rioux essaie de faire valoir qu'il existe peut-être d'autres types de démocratie. Il propose plutôt que la démocratie l'idée fondamentale selon laquelle l'homme peut agir sur l'histoire. Il tire de l'ouvrage « Idéologie et réalité » de la philosophe suisse John Hirsch, publié en 1956, le principe que la personne est un centre de possible. La démocratie est associée nécessairement à l'idée de liberté. La démocratie, c'est l'action de l'homme sur l'histoire, tandis que la liberté, c'est l'ouverture sur l'ensemble des possibles. Cette conception s'oppose donc tout autant à la conception clérico-nationaliste, fondée sur le déterminisme et le fantasme, qu'à une représentation formelle de la démocratie libérale. Donc, à la fois, il se situe face à la conception clérico-nationaliste et aussi à la représentation formelle de la démocratie libérale telle que les libéraux, effectivement, dont Trudeau, l'avançaient. Par conséquent, Rioux se distancie de plus en plus de l'idéologie de rattrapage des libéraux qui domine cité libre et prône la nécessité d'un dépassement, le besoin de définir de nouveaux possibles. Il suggère une vision plus révolutionnaire de la démocratie et s'interroge même sur les possibilités que la gauche fournisse une alternative à la droite. Cité libre publie alors à 10 000 exemplaires, ce qui est une petite chose, et pour Rioux, elle est devenue la revue du pouvoir. Donc, il choisit de rompre avec elle dès ce moment. Il faut dire aussi que cette coupure avec libéraux, donc, qui est annoncée en note préliminaire et qui était une des ruptures que Duchatel soulignait dans son texte. Donc, depuis son séjour à Paris, Rioux se réclame du socialisme, sans que celui-ci n'ait beaucoup de substance. Il se présente comme le projet d'une société qui serait autre chose que la société canadienne ou américaine. On voit très bien dans ses écrits de Cité libre que, tout en souhaitant une certaine modernisation de l'État, il espère que le renversement du régime du Duplessis fournisse l'occasion d'un changement plus en profondeur du Québec. Par ailleurs, Rioux est fortement attaché à la culture populaire québécoise. La lecture de ses monographies suffit pour s'en convaincre. Il dénonce très tôt le détournement dont cette culture est l'objet de la part d'une idéologie dominante, à caractère clérico-nationaliste dont on parlait, qui prétend la refléter. Rioux accepte cette idéologie, mais il aime l'éthos de la culture canadienne-française, comme il l'appelle. L'émergence de son nationalisme ne surprend donc pas après le début de la Révolution tranquille. Dans un contexte de répression généralisée de fermeture, il n'y avait d'autre choix que de faire des alliances avec ceux qui voulaient s'en libérer. De contexte changeant du tout au tout, il est temps de chercher à définir un projet de dépassement qui ne soit plus qu'une simple idée. Les cinq années qui vont suivre 1961 semblent pouvoir être caractérisées par cette recherche. D'abord dans le marxisme et la pensée de gauche, de solutions de dépassement. Rioux se joint à un ensemble d'intellectuels qui découvrent Marx et tente de prouver dans la tradition socialiste des réponses aux aspirations de changement du Québec. Mais selon Jules Duchatel, et je cite, « Il est permis de dire que Rioux ne s'est jamais trouvé tout à fait à son aise dans le discours et les pratiques marxistes. Tout en adhérant à des postulats aussi fondamentaux que la détermination des superstructures par la base matérielle, l'explication du réel par la mise à jour des contradictions qui s'y développent, et la nécessité d'un changement de type révolutionnaire, Rioux laisse à d'autres la définition du contenu politique et économique du socialisme pour revenir à l'étude du culturel. On a l'impression qu'il fait de nouveaux alliances à cette époque avec les éléments les plus dynamiques de la société qui cherchent du côté de Marx les moyens de transformer l'ordre des choses. Mais sa préoccupation semble être d'élargir cette recherche à la culture québécoise, qui devient pour lui la question de la libération nationale. Donc on passe de cette culture québécoise, d'étude des cultures, à la question de libération nationale. Finalement, après la mort de Duplessis en 59, la prise du pouvoir en 60 par les libéraux de Jean Lesage et son équipe du tonnerre, comme on l'a appelé, et l'amorce de la Révolution tranquille, ce sont les efforts concertés notamment du sociologue Guy Rocher, dont j'ai parlé lors du premier séminaire, et de l'abbé Norbert Lacoste, même si c'était un abbé, il a quand même été fondateur, premier directeur du département de sociologie de l'Université de Montréal, donc qui réunissent efforts qui vont finalement réussir à convaincre le cardinal Paul-Émile Léger, alors chancelier de l'Université de Montréal, d'offrir un poste à Marcel Aubry. C'est une bonne mince affaire aussi. Pour la première fois, l'université ayant une charte pontificale et un cardinal à sa tête acceptait en son sein quelqu'un qui avait fait profession publique de socialisme et d'athéisme. Le cardinal accueillait donc dans son université celui-là même qui vient de contribuer à la création du mouvement laïque de langue française. Donc avec d'autres, dont Jacques Godbout, qui est un intellectuel, cinéaste, écrivain important, qui vit encore et qui a rappelé l'importance de cette... de ce mouvement laïque des années 60, et surtout dans cette période-ci où on discute beaucoup d'une charte de la laïcité au Québec. Devenu professeur de sociologie à l'Université de Montréal en 61, donc il fait la rencontre de Jacques Dauphiny, belge d'origine et qui a étudié en France avec Freeman et Tourelle, et qui était arrivé au département au même moment que lui. À cette époque, au département, la tendance principale est dominée par la sociologie américaine. On va comprendre un peu mieux pourquoi... la réaction de Rioux est aussi forte à ce paradigme sociologique. Ils ont pour leur part une formation européenne, bien qu'en ce qui concerne Rioux, ils soient au fait des travaux de l'anthropologie américaine. Et ça, c'est une caractéristique aussi importante, pas seulement de Rioux, mais aussi peut-être des intellectuels universitaires francophones du côté du Québec, c'est d'être un peu mi-chemin entre les anglophones et francophones et même des fois par rapport aux hispanophones de l'Amérique latine, mais aussi entre la culture américaine et la culture européenne. Alors, donc, ils sont tous deux socialistes. C'est assez important parce que Rioux est dans la tradition de Léo Blum, alors que Dauphiny appartenu aussi au PSU. Donc, le terrain d'entente aussi important. C'est pas pour rien qu'ils vont travailler beaucoup ensemble. C'est une époque où la sociologie joue la faveur des étudiants, cela s'expliquant peut-être par le courant d'esprit plus ouvert qui suit la prise de pouvoir par les libéraux. Il y a comme une sorte de... et donc l'idée de cette révolution tranquille dont on parlait. Quoi qu'il en soit, le département prend un nouvel essor et il est possible de faire place à l'innovation. Il est possible d'inviter des conférenciers de l'extérieur, ce qui est quand même assez important pour l'époque. On voit défiler à Montréal Goldman, Morin, Touraine, Lefebvre et bien d'autres. Donc, il y a vraiment une ouverture et il y a vraiment une circulation qui est possible, pas seulement des écrits, mais aussi des personnes, des penseurs eux-mêmes. Le courant est favorable à une certaine gauche et à l'élargissement de la formation du côté de la sociologie européenne. Cette nouvelle orientation n'empêche pas que le département devienne très éclectique. Il n'y a pas d'école qui domine, ni de grand chef. Voilà qui a tout pour plaire à Rioux, qui, justement, n'a jamais voulu faire office de chef et non plus avoir de chef. Un département, donc, pluraliste, dont l'orientation générale permet d'ouvrir à gauche. Donc, c'est un souhait vraiment de Rioux, de cette perspective pluraliste. Donc, le premier cours qu'il donne au département porte sur l'évolution des modes de production et des sociétés à travers les temps, dans lesquels il aborde la question de l'évolution de la technologie, des rapports sociaux, etc. Donc, un deuxième cours portera sur le Québec, on va s'en dire. Enfin, il a mené très tôt à donner un cours sur Marx. On est donc à même de lui attribuer la paternité de l'enseignement du marxisme à l'université. Il a déjà lu les extraits de Marx durant la guerre à Ottawa et aussi étudié le marxisme avec son professeur Gurwitch. Mais c'est autre chose que d'avoir un enseignant. D'une part, il n'a jamais eu l'occasion de lire Marx de façon systématique. D'autre part, sa formation d'anthropologue lui a éloigné de ses préoccupations pendant près d'une décennie. Mais c'est pas par pur intérêt pédagogique ou académique que Rioux décide d'entreprendre ce travail. En 1960, ceux qui connaissent bien le marxisme se comptent sur les doigts de la main. Par contre, il y a un ensemble d'intellectuels qui ressentent le besoin d'en faire l'apprentissage. afin d'y chercher des réponses possibles à leurs questionnements. Donc, c'est pas une théorie, une idéologie qui tombe du ciel. C'est vraiment des personnes qui cherchent des réponses à leurs questionnements. Donc, Rioux fait évidemment partie du lot, prend connaissance de l'ensemble des travaux de Marx durant cette période. De Marx, il avait sa prédilection, était évidemment celui de la jeunesse, désireux d'expliquer la société sous l'optique de l'aliénation, notion utile pour étudier et pour fondre la domination des Canadiens français au Québec. Donc, de 1961 à 1976, Rioux restera le titulaire de ce cours obligatoire sur Marx, mais dont le contenu est ouvert à d'autres auteurs comme Louis Dumont et Carl Polanyi, qui pensent que la culture donne sa forme à l'économie, c'est-à-dire à la production et la circulation des biens matériels. En bref, l'économie s'encastre dans la culture comme un contenu dans sa forme. Dans cette perspective, Rioux voit dans l'imaginaire social de Costa-Rigadis une notion essentielle pour démontrer que l'économie correspond à une création humaine. Alors qu'en 1960, il n'était pas question de Marx au département de sociologie de l'Université de Montréal, et encore moins au Québec dans son ensemble, en 1965, Marx est déjà l'auteur le plus abondamment cité dans des cours et des colloques. Il y a eu un tel argument pour cette pensée que Rioux a contribué à la répondre, évidemment. Voici une anecdote qui en dit long sur son rôle de passeur. Se rendant compte qu'un jour, on ne pouvait trouver un seul livre de Marx dans les librairies de Montréal. Donc, il profite d'un voyage à Paris pour acheter 485 exemplaires de divers ouvrages de Marx qui lui sont commandés par les étudiants. Donc, c'est assez incroyable quand même. Dire, on parlait déjà de la circulation des personnes et des écrits. On voit bien la limitation de l'époque en ce qui concerne cette circulation. Si Marx est l'auteur le plus cité, il est aussi le moins critiqué par ceux qui s'y réfèrent. Donc, on a une tendance à prendre tout au premier degré. Quant à Rioux, à partir de 1966, il commence à prendre une certaine distance par rapport à l'évolution de la pensée marxiste au Québec. Il dit qu'il a toujours trouvé difficile la mise en veilleuse de la superstructure dans le marxisme. Ce sentiment est renforcé par la vogue que connaît le courant structuralo-marxiste au Québec. Rioux concède qu'il existe bien une différence entre le genre Marx, philosophe, et le vieux Marx, théoricien du mode de production capitaliste. Toutefois, il est contre le fait d'isoler l'un de l'autre. Le thème de l'aliénation demeure pour lui un élément primordial de pensée marxiste. Il n'accrochera jamais à la pensée d'Adulcin. C'est ce qui fait que progressivement, il se distancie de ceux qui, au Québec, reprennent cette pensée. D'ailleurs, une nette coupure de ce point de vue. Sur le plan politique, la recherche du dépassement se fait à travers son engagement pour la construction d'un parti socialiste et pour la diffusion d'analyses critiques à travers la revue Socialisme. En effet, à partir de 1961, Rioux est actif aussi dans le NPD jusqu'à la scission de 1963, qui conduit à la formation du Parti socialiste du Québec, dont il est un des fondateurs. Donc, quand on parlait d'intellectuel engagé, c'est quelqu'un qui travaille, oui, à l'université, mais aussi qui est très actif dans l'élaboration de structures à la fois de réflexion et d'action. Donc, évidemment, le Parti socialiste du Québec affirme une position plus radicale sur la question nationale que le NPD, c'est pourquoi il y a une scission, et sur les questions socio-économiques, dont les références se trouvent dans le socialisme, bien sûr, mais les éléments du programme afférents aux étatisations. La revue socialiste que Rioux, en 1964, fonde avec son collègue Daufny, contribue à développer des thèmes socialistes en rapport avec les questions de l'indépendance du Québec, donc une association entre nationalistes et indépendantistes. Comme le titre complet le dit, Revue du socialisme international et québécois, l'équipe éditoriale entend mettre en évidence à la fois la spécificité culturelle du Québec et la solidarité internationale. La plateforme de départ annonce qu'on va traiter du socialisme, la critique du capitalisme et du colonialisme. Dans le socialisme, Rioux définit la démocratie comme devant être à la fois affaire de classe et affaire d'individu. La démocratie doit signifier égalité et liberté des personnes. Mais le socialisme est ensuite une question de moyens économiques devant permettre l'exercice de cette démocratie. Toute la question revient aux hésitations de son maître Burrich entre Marx et Proudhon, entre le socialisme scientifique et le socialisme utopique. Pour Rioux, on ne peut faire l'économie ni de l'un ni de l'autre. Ce n'est pas avant 1964 que Rioux se déclare indépendantiste. C'est au congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française, au lac Beauport, que le sociologue Fernand Dumont et Guy font savoir publiquement qu'ils sont indépendantistes. C'est quand même important parce que ce sont des figures reconnues à ce moment-là dans la société en général. Cette profession de foi se fait en présence de Serge Vallée, Jacques Berthe, Lucien Goldman, Pierre Georges et d'autres. Donc, il y a des gens, j'indique ça pour dire qu'il y a une poursuite finalement des échanges avec les intellectuels européens. Plusieurs des théoriciens du colonialisme ont beaucoup d'influence sur eux. C'est précisément parce que Rioux peut appuyer son nationalisme sur une pensée de gauche qu'il décide d'endosser cette position indépendantiste. L'homologie faite entre les situations de libération nationale en Afrique du Nord, par exemple, et la situation du Québec permet de poser la question nationale dans des termes qui se démarquaient radicalement de nationalisme pacifiste et réactionnaire. Songeons ici au mouvement de libération nationale de décolonisation des années 60 et aux écrits d'auteurs comme Albert Mimi ou Frantz Fanon. C'est des auteurs qui étaient extrêmement lus et même il y a eu des éditions québécoises de ces auteurs également. Au congrès du lac Beauport, donc, Rioux présente communication intitulée « Conscience ethnique et conscience de classe au Québec ». Il n'est pas surprenant de voir coïncider sa prise de position pour l'indépendance du Québec avec les présentations de cette thèse sur les classes ethniques. Cette communication est issue d'un travail qu'il a présenté avec Daphne au congrès de l'Institut des affaires canadiennes de l'Université de Carleton en 1962. L'article illustre le fait que la société canadienne française est tronquée de deux manières. D'un côté, le Québec subit la dépendance économique de la part des États-Unis. De l'autre côté, il est sous la dépendance politique du Québec. Du Canada, plutôt. Donc, la dépendance du Québec politique par le Canada. Daphne et Rioux font l'hypothèse suivante, je cite. Les Canadiens français se considèrent et sont considérés comme une minorité ethnique reconnue qui, à l'intérieur du Canada, envisagée à son tour comme société globale, joue le même rôle que celui d'une classe sociale à l'intérieur d'une société globale. Cette hypothèse audacieuse tentait de transcrire à l'intérieur d'une problématique marxiste la question nationale. Les auteurs présentaient l'histoire du Québec comme le jeu dialectique entre la prédominance d'une forme de conscience, soit de classe, soit ethnique, l'une sur l'autre ou inversement, selon les époques. Leur hypothèse était que jusqu'en 1945, la conscience de classe ethnique avait obnubilé toute forme de conscience de classe. De 1945 à 1958, la conscience de classe aurait pris le dessus sur la conscience ethnique. Enfin, depuis 1958, c'est la conscience ethnique qui aurait tendance à dominer. Donc, on voit le lien qu'il fait avec la prise de pouvoir des libéraux et justement cette classe au pouvoir qui prend le pouvoir et qui s'oppose finalement à la vision cléricalo-nationaliste dont je parlais. Donc, non seulement cette conception avait l'avantage de présenter le problème national dans le langage de la domination et de la dépendance, mais elle présentait l'avantage d'expliquer la contradiction inhérente au Québec entre la nécessité d'une libération socio-économique et la problématique constitutionnelle nationale. Mais si, comme si l'hypothèse qu'il développait avec Dauphine n'était pas suffisamment solide sur le plan théorique, Rioux revient sur la question dans sa communication au Congrès dont je parlais tantôt. Il introduit des éléments susceptibles d'éclairer la question. Sur le plan de l'analyse politique, il montre l'unité du concept de classe ethnique en ce qui permet d'expliquer la situation de chaque époque. Oui. Rioux dit à ce sujet, je cite, « On peut dire que c'est l'interaction entre ces deux situations de fait et la prédominance de l'une ou l'autre conscience à un moment donné qui explique la physionomie de chaque époque, les alliances et les luttes idéologiques qui apparaissent au Québec. » Sur le plan théorique, Rioux essaie d'expliquer le concept de classe ethnique à partir des éléments de définition des classes repris de Gurevitch. Il se sert des critères très descriptifs de ce dernier pour déterminer la pertinence du concept de classe ethnique. La classe ethnique répondant en effet aux critères de résistance à la société globale et aux critères de l'incompatibilité entre deux classes. Ce qui semble cependant plus important et qui contribue à réduire le caractère problématique du concept de classe ethnique qui recouvre alors toute la réalité du Québec, c'est l'introduction de l'idée que la conscience de classe varie selon les classes sociales. Ainsi, à l'intérieur de chaque époque, il est possible d'observer une conscience à dominante ethnique dans les classes supérieures et une conscience à dominante de classe dans la classe ouvrière. En somme, il s'agit, sous d'autres formes, de la reprise de l'idée qu'il développait dans les années 50 sur l'éthos de la culture populaire qui était en correspondance avec l'ère industrielle, alors que l'idéologie dominante des classes privilégiées est avant tout de nature nationaliste. Interrogé plus tard, dans les années 80, par Duchâtel, sur la pertinence du concept de classe ethnique, Rioux ne réduit pas cette catégorie à condition de poser le problème des classes sociales en même temps. La classe ethnique correspond pour lui à l'idée que l'ethnie canadienne-française est globalement dominée. Si à l'époque, il croyait que la conscience de classe ethnique pouvait constituer un frein pour le développement de la conscience de classe, il explique qu'à partir des années 60, les deux types de conscience ont eu tendance à s'imbriquer. Les centrales syndicales, dira Rioux, ne se battaient plus seulement contre les patrons, mais aussi contre des patrons anglais. Et ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Québec, c'est tout à fait pertinent. On ne trouve pas dans l'article de Rioux une définition rigoureuse du concept de classe ethnique, bon, qui s'appuie sur des critères objectifs. Il y a continuellement un flottement entre les deux concepts. Dans le premier cas, il s'agit d'une vague homologie avec le concept de classe chez Marx. Elle sert à indiquer l'état de dépendance du Québec par rapport au Canada. Dans le second cas, la conscience ethnique décrit beaucoup mieux la réalité d'une idéologie qui détourne ou tente de détourner à son profit toute autre idéologie susceptible d'identifier les rapports de dépendance entre classes au sein même du Québec. Ces réflexions de Rioux et Dauphiny, si elles ne disent pas le dernier mot sur la question, permettent tout de même, dès lors, de renouveler le questionnement dans le sens d'une problématique plus marxiste des idéologies. Rioux a dit lui-même que l'année 66 avait été d'une grande importance pour lui, autant en ce qui concerne l'évolution du Québec que, évidemment, pour la sienne propre. 1966, c'est l'essoufflement de la Révolution tranquille, déjà. Le Parti libéral de Jean Lesage subit la défaite face à l'Union nationale qui reprend le pouvoir sous la direction de Daniel Johnson. 1966, c'est aussi l'année durant laquelle il devient président de la commission d'enquête sur l'enseignement des arts au Québec, dont les travaux lui permettront de pousser sa réflexion sur l'action créatrice de l'homme dans la société et à mettre un contenu dans son projet de dépassement qu'il nourrit depuis la fin des années 50. L'exigence étant, selon lui, à l'élaboration d'une nouvelle culture. Donc, lorsqu'on parle de la révolution tranquille, on parle quand même d'une période relativement courte. Donc, d'un grand chambardement, mais aussi dans ce grand chambardement des institutions, il y a l'introduction par des personnes comme, par des univers comme Rioux, de la pensée marxiste, de la pensée matérialiste. Concernant plus spécifiquement son adhésion à la pensée marxiste, un aperçu de la leçon inaugurale qu'il donnait à l'Université de Montréal en mars 1965 permet de bien voir la liberté qu'il prend par rapport au marxisme et en même temps le cheminement continu de sa pensée qui persiste à s'y référer. Rioux fait l'hypothèse que l'évolution des sociétés développées peut être amenée à trois révolutions, dont la dernière serait dans les années 60 à peine amorcée. La première révolution serait la révolution urbaine, contre les ruraux, les urbains auraient imposé leur mode de vie. La deuxième serait la révolution industrielle, dont le groupe révolutionnaire serait la classe ouvrière. Puis la troisième révolution, celle de la société post-industrielle. Dans ce contexte, il croit que le prolétariat ne peut maintenir sa position d'avant-garde dans le combat révolutionnaire. Je cite Rioux à ce sujet. L'hypothèse que je veux défendre, c'est qu'à notre époque, en prolongement de la polarisation paysan, urbain et bourgeoisie prolétariat, la polarisation jeune et adulte me semble la plus significative. Rioux explique toutefois que tout comme la révolution industrielle a renforcé l'urbanisation, il n'est pas impossible que le conflit des générations ait un effet d'entraînement sur la conscience prolétariat qui pourrait alors, disait-il, se réveiller du sommeil dans lequel l'aurait plongé la société de consommation. Puis il ajoute, ce qui me semble justement être la spécificité de la jeunesse contemporaine, c'est que d'une part, les jeunes se soient appropriés des traits qui naguère encore demeuraient l'apanage des adultes, et que d'autre part, ils refusent en même temps d'être adultes comme leurs parents le sont. Deux choses peuvent être soulignées pour nous faire comprendre l'importance de cette réflexion dans l'évolution à venir de Rioux. D'une part, l'accent mis sur le développement de la société post-industrielle et l'importance du domaine de la connaissance du changement dans celle-ci marque pour lui le lieu où toute transformation à l'avenir devra survenir. D'autre part, l'identification des jeunes comme classe révolutionnaire indique un déplacement des revendications proprement économiques vers des demandes axées sur la vie quotidienne et la culture. Enfin, dans sa leçon inaugurale, Rioux n'oublie pas de revenir sur la situation spéciale du Québec en disant « Si le Québec rassemble ressemble par certains traits au reste de l'Amérique du Nord, il ressemble aussi par certains aux autres aspects aux pays ex-colonisés. Ryu saisit deux formes de conscience chez les éléments les plus dynamiques, c'est-à-dire une aliénation de colonisés et un sentiment d'appartenance à une sous-culture jeune nord-américaine. En 1968, deux événements contribuèrent à compléter le contexte de l'évolution de sa pensée. Il s'agit de la contestation étudiante qui vient en quelque sorte confirmer, du moins partiellement, sa thèse sur la jeunesse. Il s'agit aussi de la venue sur la scène politique du Parti québécois, dont il entrevoit les chances de prendre le pouvoir. Hein, c'est un parti indépendantiste. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il décide de joindre les rangs de ce parti sans trop le critiquer. Il conçoit que l'on puisse voir cet engagement de contradiction avec ses positions de socialisme. Il insiste sur la priorité politique de bâtir un pays de Québec. D'ailleurs, il croit dès le temps en la vocation social-démocrate du parti et cela lui semble un compromis acceptable, puisqu'à ses yeux, il est le seul parti habilité à créer un pays. Ça revient systématiquement chez lui. Il semble y avoir chez lui un mélange, justement, de pragmatisme, donc de principes de réalité, et de capacités imaginaires, ainsi utopiques, qui se marient sans que cela ne lui pose de problème. Enfin, il ne se reconnaît peut-être plus assez dans les groupes qui se multiplient à gauche pour se voir empêcher de faire ce choix, quitte à se faire traiter de réformiste. Les années de 69 à 74 constituent une étape où les diverses orientations théoriques politiques de Ryu se précisent. En 69, Ryu a 50 ans. Ses propres recherches sur la jeunesse, l'émergence de mouvements de contestation et de contre-culture et la fondation du Parti québécois, tout cela le conduit à amorcer une période de réflexion qui poursuivra jusqu'en 74. Comme si les changements dans sa vie devaient toujours s'accompagner d'un déplacement dans l'espace, cette période coïncide avec son établissement presque permanent dans le village de Nord-Adelaide, dans les cantons de l'Est. Le contexte dans lequel ces orientations ont lieu est celui de sa tentative de fonder un nouveau village communautaire avec des amis intellectuels et artistes. Les énergies qu'il investit dans ce projet sont en phase avec la réflexion qu'il amorce durant cette période, dont son essai l'essai de sociologie critique représente un effort de faire le point sur ses options théoriques, en particulier le marxisme, et sur son engagement politique en tant que sociologue. Moi, je vais m'attarder un peu plus à cet ouvrage dans la seconde partie qui arrive bientôt. Mais c'est surtout à travers le projet d'une nouvelle revue dont le titre est Possible, qu'il espère faire avancer et promouvoir sa pensée autogestionnaire. C'est le 24 juin 1974, dit-on, le jour finalement de la fête nationale au Québec, dans la commune de Nord-Tartley, connaît le projet de la revue qui compte parmi les cofondateurs, finalement, pas seulement des universitaires, mais aussi des artistes. Roland Giguère, Gérald Godin, Gélénaud, Gaston Miron. Alors, on voit, il y a quelques poètes là-dedans, fameux au Québec, et qui sont des références encore aujourd'hui pour les jeunes générations. D'ailleurs, Gaston Miron, l'homme rapaillé, a fait l'objet de deux disques de jeunes auteurs, interprètes québécois. Très intéressant d'ailleurs. Donc, la revue Possible est tout naturellement nationaliste, donc qui socialiste, mais dès son premier numéro, en octobre 1976, un mois avant la venue au pouvoir du PQ, Ryu y définit dans un premier article les options fondamentales de la revue. Indépendance du Québec et édification progressive d'une société socialiste que plusieurs nomment autogestionnaire. L'autogestion n'est pas, écrit-il, une théorie, mais plutôt une expérimentation constante où les pratiques émancipatoires prennent le pas sur la théorie. Au printemps 1978, Ryu réaffirme la nécessité de se battre sur les deux fronts. L'indépendance, c'est l'autogestion nationale et l'autogestion à tous les niveaux n'est possible que par l'indépendance nationale. Donc, il relie les deux phénomènes. Ryu se dit davantage alors participer du courant chaud du marxisme, reprenant cela l'expression de marxisme chaud de Hans Bloch, celui connu pour ses travaux sur la culture, les formes d'art, la créativité artistique, l'utopie dans les sociétés contemporaines. Ryu observe que le fait de changer les structures ne donne pas toujours la garantie de changement au niveau des pratiques. Il préconise donc, avec les risques que cela comporte, une démarche moins rassurante et moins rigoureuse. Ryu n'hésite pas à comparer sa démarche à celle de l'artiste lorsqu'il dit que la démarche critique qui explore les possibles se rapproche de celle des créateurs de possibles que sont les artistes. En fait, pour Ryu, je cite, « L'autogestion, c'est plus que l'autogestion, c'est en premier lieu et en dernier lieu l'autocréation de soi-même, de la culture et de la société. » L'article révèle une position encore plus fondamentale et constante chez Ryu, c'est-à-dire un antidogmatisme absolu. et tolère très mal toute idée de ligne juste, qu'elle soit de gauche ou de droite. Cette réticence fait écho à sa critique passée du cléricalisme triomphant. C'est aussi la source de son anarchisme des années de guerre et de sa virulente opposition au régime du Plessis. Il croit maintenant trouver dans l'idée qu'il se fait de l'autogestion la garantie que les changements émergeront de la base de façon démocratique sans qu'il y ait intervention autoritaire, ni de la théorie, ni du pouvoir. Le dernier chapitre ajouté à la question du Québec après l'élection du Parti québécois sur l'idée que les Québécois sont amenés à marcher sur une corde raide dans la mesure où ils doivent concilier deux objectifs, d'une part l'indépendance nationale, de l'autre la construction d'une société nouvelle. Ces objectifs devant se réaliser dans un environnement qui est hostile, faisant référence ici à la domination politique canadienne et à l'impérialisme américain. C'est dans ce contexte, selon lui, qu'ils doivent doser rattrapage et dépassement. Le Québec est-il condamné en quelque sorte à viser le dépassement. Cependant, Rioux n'est plus aussi convaincu de l'idée du privilège historique du Québec. Cette opinion qui lui venait de l'idée de Trotsky, qui pensait que certaines sociétés peuvent sauter une étape de développement. Je crois que finalement, nous avons maintenant suffisamment d'éléments d'évolution de cette pensée et la mise en contexte pour passer à la seconde partie. Puis les deux autres parties vont être relativement plus courte, mais c'était nécessaire de mettre en contexte pour bien comprendre ce qui va arriver finalement les ouvrages de Rioux qui publiera en 68 donc l'essai de sociologie critique. Donc avant d'aborder comme tel l'essai de sociologie critique que Rioux publie en 78, il faut s'adapter un instant aux travaux qui constituent en quelque sorte la genèse de cette réflexion épistémologique que représente l'essai. Il y a d'abord cette recherche importante que Rioux entreprend en 69 et dont les résultats sont publiés en 73 par les presses de l'Université de Montréal, sous le titre « Aliénation et idéologie dans la vie quotidienne des Montréalais francophones ». C'est une recherche qu'il effectue avec son collègue Robert Sévigny, psychosociologue, avec lequel il a mené déjà une étude sur les jeunes Québécois. Tous deux sont particulièrement préoccupés par la spécialisation sociologique qui tend à découper la réalité en petits fragments sans pouvoir proposer la compréhension de leur totalité. Ils définissent leur objet de recherche autour de vécu quotidien des gens, présupposant y trouver l'expression de cette totalisation. Sous l'impulsion de Rioux, le collectif réfléchit d'abord sur le problème de l'unification de l'expérience des individus dans leur vie quotidienne. Les deux dimensions principales de cette réflexion s'articulent autour du concept d'aliénation, c'est-à-dire comment les individus intègrent au niveau de leur personnalité sociale les diverses expériences vécues dans la société, et du concept d'idéologie, c'est-à-dire comment les agents sociaux reflètent dans leur vécu les diverses déterminations sociales dont ils sont l'objet. L'introduction et la conclusion des volumes consacrés à cette recherche sont signés entre autres de Marcel Rioux. Trois termes de réflexion ressortent de ses écrits. D'abord, l'importance déterminante de la vie quotidienne et du vécu pour comprendre le social comme processus de totalisation. Ensuite, le problème des rapports entre l'approche macro-sociologique sociale et l'approche micro-sociologique, problème qui suscite sa réflexion sur deux conceptions du marxisme. Enfin, la difficulté ressentie dans le collectif de saisir le processus de transformation du réel. Sur l'importance de la vie quotidienne, je cite Rioux. On peut définir la vie quotidienne comme un niveau de réalité et d'analyse de la vie sociale où d'autres niveaux et d'autres aspects des phénomènes sociaux sont retotalisés d'une façon plus ou moins partielle, selon certains actes et en fonction de certaines variables, dont les plus importantes sont la société globale, la classe, le sexe, la couche socio-économique, la ville, le quartier et la famille. Cela conduit donc Rioux à réfléchir sur ces deux tendances de la sociologie qui consistent à privilégier l'une ou l'autre dimension du social. Il reproche aux psychosociologues de ne pas prendre en considération l'ordre des déterminations sociales en ce qui concerne les sociologues qui ne s'en tiennent qu'aux structures générales du social. Il leur reproche de ne pas être en mesure de saisir la spécificité de la manifestation de ces structures dans des individus concrets historiquement situés. C'est donc à travers le concept d'aliénation que Rioux croit possible une réconciliation des perspectives. Cette réflexion lui permet alors de prendre définitivement ses distances avec le type de marxiste qui triomphe à cette époque, sous l'influence d'Althusser et de Poulenzas. Je cite Rioux à ce sujet. Ses auteurs, comment Rioux, opposent à cette conception de formulation dite objective ou scientifique, qui est une sociologie des structures et des rapports sociaux. Comme dans les autres variétés du structuralisme, le sujet s'évanouit. On peut toutefois se demander s'il ne s'agit pas là de deux points de vue différents sur la réalité sociale. Si d'une part, pour expliquer le vécu, il faut le reporter aux structures dans lesquelles il évolue, et si c'est bien l'existence qui détermine la conscience universelle, on peut aussi valablement se demander comment un sujet est justement déterminé par les structures et non pas se contenter de le faire disparaître. À moins de décider que l'étude du vécu du sujet ne soit pas un objet valable d'étude, ce qui contreviendrait aux intentions les plus explicites de Marx lui-même, il faut insérer ce vécu dans une sociologie du sujet, quitte à montrer en quoi et comment il est ce que les structures l'ont fait. Rioux ne nie aucunement l'importance de l'étude des rapports sociaux dans leur ensemble, tel qu'il se manifeste dans les rapports de nature économique ou politique. Cependant, il s'intéresserait toujours, quant à lui, à leur manifestation au niveau culturel. Pour Rioux, ce ne sont pas les structures qui font l'histoire, mais l'homme qui, se prévalant de sa liberté, fait des choix entre des possibles. Cette position ne doit cependant pas servir à masquer l'ordre des nécessités et déterminer ce qui pèse sur lui. Le concept d'aliénation lui semble pouvoir exprimer cette réalité en tant qu'elle se manifeste au niveau du vécu des gens. L'exercice de cette liberté devient donc la condition de la libération de toutes les formes d'aliénation sociale. Un troisième ordre de préoccupation attire l'attention de Rioux dans la conclusion du rapport de recherche. Il s'agit de l'incapacité du collectif de recherche de saisir véritablement les manifestations du changement dans leurs études de la vie quotidienne des Montréalais. Rioux s'inquiète donc du fait que la recherche n'est pas suffisamment été orientée vers les problèmes du changement, cela manifeste son obstination à chercher dans le réel les indices de cette transformation. Dans cette même veine d'interrogation critique, il y a également l'article publié en 1969 dans la revue Sociologie et Société sur le titre « Remarques sur la sociologie critique et la sociologie aseptique » et qui, selon le sociologue Marcel Fournier, encore prof à l'Université de Montréal, a influencé toute une génération. On peut comprendre, compte tenu de la prégnance de la sociologie américaine dans les départements, on comprend passablement mieux ce texte. Dans cet article, Marcel Rioux départage en quelque sorte deux conceptions de la théorie sociologique. La sociologie critique inspirée de la théorie élaborée par Karl Marx et la sociologie positiviste ou aseptique, comme il la qualifie, fondée sur l'œuvre de Max Weber. Rioux caractérise la pensée de Marx à travers quelques dimensions qui lui apparaissent capitales. D'abord, le marxisme a le mérite d'introduire la méthode dialectique comme vecteur d'une analyse propice à l'émancipation susceptible de contrer l'aliénation. Ensuite, le marxisme se définit autour de la notion de praxis, qui signifie, dit-il, action, production, travail, lutte, création. En fait, cette sociologie est celle de la liberté, c'est-à-dire celle du dépassement des aliénations et des déterminismes sociaux. Bref, la sociologie critique, cherche à débusquer la domination face à laquelle sont aux prises les groupes sociaux et les individus, et sur la lancée, veut créer les moyens requis pour s'en soustraire. Je cite Rioux. Marx n'introduit pas de dualisme en fait et valeur. La notion de praxis, au contraire, unit théorie pratique et ne lui permet pas de séparer existence et conscience, fait et valeur. Rioux rejoint en cela Lucien Goldman, qui disait que Marx ne mêle pas comme tel des jugements de valeur et de fait, mais développe plutôt une analyse dialectique dans laquelle explication, compréhension et valorisation sont rigoureusement inséparables. À cette sociologie critique, Rioux oppose la sociologie aseptique qui correspondrait, chez Max Weber, à la science pure, exemple de valeur et réfractaire à l'idéologie, afin d'établir uniquement les faits et de les concevoir comme objets. Cette sociologie est, dit Rioux, ahistorique, analytique, fonctionnelle, théoriquement sceptique et conformiste en fait. Weber rejette la dialectique comme méthode des mouvements de totalisation, de totalisation de la réalité. Il recherche plutôt, à l'instar des sciences dites exactes, l'explication à travers la causalité. Ensuite, Rioux juge Weber relativiste, puisqu'il ne reconnaît pas de critères transculturels pour juger du progrès social. Il ouvre donc la porte au fonctionnalisme en sociologie et au relativisme culturel. La question centrale se trouve donc pour Rioux dans l'attitude par rapport à la question des valeurs. Weber préconise qu'on établisse une barrière entre faits et valeurs, car celle-ci serait essentiellement subjective, individuelle et rationnelle. Rioux dira, il semble donc que du point de vue théorique, à tout le moins, c'est la méconnaissance des valeurs sociales, des valeurs collectives, qui porte Weber à chercher des fausses solutions au dualisme qu'il voit entre faits et valeurs. À partir de cette représentation des valeurs individuelles, la sociologie weberienne préconise, selon Rioux, une sociologie libérée des valeurs, notion qui est manifeste dans la sociologie américaine, qui, depuis les années 1930, est devenue le paradigme sociologique dominant. Voilà pourquoi il se fait un devoir dans cet article d'examiner en détail, et probablement que cet article-là est destiné passablement aux étudiants qu'il a, et aux autres profs de sociologie. Donc, il examine en détail cette sociologie et la société qui la secrète, afin de pouvoir situer et expliquer la place dominante prise par la sociologie acceptée. Par exemple, la sociologie américaine, suivant ce modèle, se définit comme une « value-free sociology », ce qui veut dire, pour Ryu, une sociologie alignée en fait sur les valeurs dominantes qui ne sont pas avouées comme telles. Pour Ryu, il n'est guère étonnant de constater, dans ce contexte, que de nombreux sociologues prêtent leurs talents et leurs techniques à des vastes entreprises qui veulent connaître la sociologie pour mieux la manipuler, c'est-à-dire sous le couvert de l'engineering social. La sociologie aseptique devient aussi canonique et se répercute sur l'évolution de la discipline à l'échelle internationale dans les sociétés comme aux États-Unis, où l'on programme la fin des idéologies. On l'aurait compris, Ryu préconise plutôt une sociologie critique qui puisse intégrer le problème des valeurs plutôt qu'en en nier l'influence. Il faut pour cela, dit-il, réintroduire la question du développement et des idéologies. Cette question implique, dit Ryu, le rejet de la position de Weber sur la subjectivité des valeurs et le dépassement du dualisme fait-valeur. La position critique nous amène à considérer les faits et les valeurs comme deux éléments permanents de tout le mouvement de la société humaine. Et Ryu ajoutera, ces valeurs ne sont pas celles du sociologue, ni des sociologues, mais celles des collectivités qui affirment leur finalité sociale, la création de leurs valeurs, de leur liberté. Dans la notion de développement, il y a du positif et du normatif. Du positif dans son aspect d'adaptation à la réalité, de mécanismes et de techniques pour provoquer la mise à jour et le maintien de la croissance, mais aussi du normatif, en ce sens que les collectivités y inscrivent certaines finalités, certaines valeurs. Dans la réalité, les deux phénomènes sont en constante interaction. L'idéologie représente ou présente le même visage. Si l'idéologie est la définition de la situation par un groupe social en vue de l'action, elle doit, pour une part, s'adapter à la réalité pour la série de près et en même temps, elle reflète le projet d'exister collectif du groupe, c'est-à-dire les fins et les valeurs qu'il veut réaliser. En définitive, en remettant en question le principe de la neutralité axiologique, Ryu dénonce dans cet article « Le savant qui prétend pouvoir, la science aidant, jeter un regard objectif sur le monde et la société. » Le scepticisme n'étant en science sociale qu'un mirage, les sociologues, eux aussi, étant des citoyens, ils peuvent difficilement demeurer neutres ou impartiaux. Ryu présente la sociologie comme une entreprise génératrice de connaissances susceptible d'expliquer et de changer la société dans laquelle évoluent même les artisans de la discipline. Encore en 1969, Ryu considère le marxisme comme étant le prototype de la sociologie critique. Ce qui marque un changement fondamental en 1974, c'est la critique qu'il inaugure du marxisme lui-même. L'essai de sociologie critique paru en 1978, même s'il est terminé dans les grandes lignes depuis 1974, constitue donc une étape charnière. Sinon, dans la vie de Marcel Ryu, du moins dans la représentation qui se fait de son évolution. Ryu tente dans cet essai de conjuguer son approche théorique et sa pratique d'intellectuel engagé. Sur le plan théorique, il éprouve le besoin de réconcilier ses orientations avec une position épistémologique concordante, alors que sur le plan politique, il est en quête d'un projet en accord avec les analyses qu'il fait de la société contemporaine. On y retrouve donc une théorie sociologique de l'émancipation et surtout la mise en valeur de ce que le sociologue a appelé les possibles. En cela, il rejoint nombre de penseurs de cette génération, dont Henri Lefebvre, qui s'efforçait, il aimait le répéter, de penser l'impossible pour saisir tout le champ du possible. L'introduction de cet essai décrit l'ouvrage comme le point d'arrivée d'une longue réflexion sur sa pratique sociologique. Ryu s'explique sur la distance qu'il a prise progressivement par rapport au marxisme, et je cite, « C'est d'abord en essayant de prendre compte théoriquement de l'apparition d'une nouvelle culture, d'abord chez les jeunes et dans d'autres couches de la population, c'est-à-dire de nouvelles conduites, de nouvelles valeurs et d'attitudes, de ce qu'on a appelé aussi une nouvelle sensibilité qui m'est apparue, à tort ou à raison que les sociologies traditionnelles n'expliquaient pas ce phénomène de façon satisfaisante. Cette distance par rapport au marxisme a pris toutefois naissance dans des écrits qui datent déjà de plusieurs années, notamment dans la leçon inaugurale de Ryu en 1965, lorsqu'il définissait les changements engendrés par la société industrielle et avec eux une modification des rapports de classe et l'identification de nouveaux acteurs révolutionnaires. Alors que dans son article de 69, il définit la praxis chez Marx comme étant à la fois production, travail, lutte et création, il considère dans son essai que ce concept marxiste est trop exclusivement lié au concept de travail. Marx lui apparaît influencé par les catégories générées par son époque, soit les notions de rareté, travail, production, domination de la nature. Il estime que l'analyse de Marx privilégie ces notions au détriment d'un autre aspect de l'homme qui concerne davantage son activité symbolique. En fait, Rioux ne rejette pas la pertinence de l'analyse marxiste quant à l'identification des déterminismes sociaux et des lois de fonctionnement de l'économie. Toutefois, il lui reproche de ne pas pouvoir prendre en charge l'aspect culturel des sociétés. Cette incapacité lui semble d'autant plus préjudiciable que les sociétés lui apparaissent de plus en plus déterminées par leur ordre culturel. Dans l'essai, cette difficulté du marxisme se préoccupe, et je le cite, « Ce qui n'est pas discuté chez Marx, c'est la relation des deux dimensions d'activité de l'homme, production et communication symbolique. Peut-on, sans discussion, faire de la production, de l'activité instrumentale, la fin de la société et faire de l'activité symbolique un reflet de l'activité de production? » Ce n'est pas tant la pensée de Rioux qui change depuis 69, c'est plutôt l'idée qui se fait de Marx. Dans son article de 69, il définit deux tendances à la sociologie. La tendance critique est celle qui fait sienne, mais c'est aussi celle qui est identifiée au marxisme. En 1974, il a encore la même idée de ce que doit être la sociologie critique, sociologie axée sur les leçons pratiques et d'aliénation. Mais il distingue maintenant trois types d'approches sociales. L'approche positiviste qui tente d'expliquer le réel à travers un système de causalité, l'approche herméneutique qui accorde la priorité à la théorie sur la pratique, et enfin l'approche critique qui vise, selon lui, à identifier les pratiques émancipatoires. Rioux dit, et je cite, « La sociologie critique prend le parti de soutenir que tout un pan important du social historique n'est pas analysable selon les canons de la science positive et que par conséquent, celle-ci ne peut pas s'arroger le droit de décréter quelle est la seule et unique démarche possible pour l'étudier. » Selon lui, dit-il, un sociologue critique qui rétablit l'importance de la pratique par rapport à la théorie doit s'intéresser tout autant à la création d'un autre type de société, à la société qui se fait, qu'à la critique de la société existante. Rioux reprend alors l'idée de l'importance de l'imaginaire social et de la création qu'il a déjà introduite dans des ouvrages précédents, inspiré qu'il était par son ami Castoriadis. Mais surtout, il pose la question primordiale pour lui du rapport entre théorie et pratique. Je le cite. « C'est une des tâches de cet essai que de tenter d'asseoir théoriquement le point de vue émancipatoire et de distinguer dans la question de la relation entre théorie et pratique une position du point de vue émancipatoire qui soit distinct de ceux de la science positive et de l'herméneutique. La sociologie critique doit pouvoir identifier dans ce contexte une conduite émancipatoire et les agents susceptibles de transformer le réel dans la voie de cette plus grande émancipation. Rioux croit que ces conduites se trouvent dans la définition de nouvelles cultures au niveau de la vie quotidienne et dans l'élaboration d'autogestion au niveau politique. Il revient au sociologue de repérer les expériences susceptibles de faire avancer le social historique dans cette direction. Rioux dira à ce propos, « Pour nous qui croyons que la théorie ne fait qu'élucider les mouvements du social historique, la théorie ne pouvant ni édicter les lois, ni prévoir l'avenir, la tâche est beaucoup plus difficile puisque la vérité n'est pas révélée par la théorie et ensuite appliquée au réel, mais c'est le réel, au contraire, qui nourrit la théorie. Ce qui oblige l'analyse à déceler dans la réalité des mouvements, conduites et groupes qui sont porteurs de nouveautés et d'émancipation. » Je vais conclure dans ce troisième temps en jetant un dernier coup d'œil rétrospectif sur l'œuvre de Rioux, qui selon celui qui donne à voir que la culture en est à la fois le point d'origine et le point d'arrivée. Avec sa formation anthropologique, il s'intéresse d'abord à la culture des communautés, mais il devient en fait le théoricien de l'idéologie au Québec. Il se préoccupe de la société dans son globalité, et pour lui, c'est donc à travers la culture que l'on doit la comprendre, cette société. Rioux dira, je cite, « Ma cohérence, je la vois dans l'anthropologie culturelle. À la limite, je puis dire, je suis un marxiste culturel. Par toutes sortes de détours, je reviens toujours à la culture. Mais je crois maintenant que les contradictions dans la réalité contemporaine sont des contradictions culturelles. Ces contradictions ont pris le pas sur les contradictions économiques, sans évidemment les faire disparaître. Mais si je vous rappelle, je vous parle en même temps de mon évolution politique, de mon évolution théorique, c'est que je crois maintenant que le plus grand problème qu'il nous faut résoudre en tant qu'intellectuel, c'est celui du rapport entre théorie et pratique. Cette perspective d'analyse se retrouve au fil des thèmes et des thèses qu'il aura développés tout au long de sa production. Très tôt sont apparus les thèmes de communauté, on l'a vu, de solidarité communautaire, de dépassement, de possible d'autonomie, de créativité. Ces thèmes prennent diverses formes dans des contextes différents, mais leur lecture transhistorique permet d'en voir la similitude et la cohérence. De la même façon, son cheminement intellectuel et politique s'est déroulé sous le signe d'opposition à l'opposition. Un trajet allant de son anticléricalisme à son anti-duplessisme, puis à son anti-fédéralisme et enfin à son anti-impérialisme. Si on entend par là de domination culturelle que Ryu qualifiait de stade suprême de l'impérialisme. À la fin de sa vie, Ryu a fait l'autopsie de l'échec référendaire de 80, de la dérive du régime Békis et de l'essoufflement de la Révolution tranquille. D'ailleurs, dans son dernier livre, Un peuple dans le siècle, qu'il publiera 2 ans avant son décès en 92, Ryu démontre un grand pessimisme envers l'avenir du Québec qui lui apparaît perdu. Tant l'atomisation et l'américanisation progressent et que l'engouement des Québécois francophones envers l'économie semble le compromettre à jamais, tout comme d'ailleurs le projet d'indépendance politique. Et comme il en faisait le constat dans son article « Requiem pour un rêve », ni l'État ni les partis politiques ne semblent pouvoir sortir le Québec de l'impasse. Il faudrait plutôt compter, disait-il, sur la société civile, porteuse d'un projet de société associative et coopérative. On peut comprendre en partie le désarroi de sociologues publics avant la lettre lorsqu'on en sait les ambitions qu'ils nourrissaient pour la sociologie critique en particulier et la société québécoise en général, l'une et l'autre étant pour lui fondamentalement liées. Je terminais cette pensée de Ryu tirée de son itinéraire sociologique, de son texte itinéraire sociologique publié en 1974, qui traduisent en plus de termes cette quête qu'il a habité tout au long de sa vie. Je le cite. L'aventure de la sociologie n'est rien si elle n'est pas intimement mêlée à l'aventure de la désaliénation de l'homme contemporain et à celle de la libération de son pays. Donc, sur ces mots, je vous remercie de votre attention.
Un peu long. C'est toi qui anime en même temps.
C'est moi qui anime. Ah, il n'y a pas eu de présentation aujourd'hui.
Bah, tout le monde s'est quitté. Donc,
Non, moi j'ai deux questions. Oui. Comme ça, je me posais deux questions qui étaient, est-ce que ça va venir ou pas, et puis finalement, du coup, c'est une vraie question. Parce que finalement, je suis assez étonnée de l'absence de deux références qui me paraissent assez importantes, mais sans doute qu'elles ont peut-être une explication. C'est d'une part l'œuvre de Charles Taylor, c'est-à-dire comment est-ce qu'il se situe par rapport à ça, par rapport au travail de Taylor et à la politique multiculturaliste qu'il a cherché à promouvoir et qui a eu un rôle aussi politique très important. Et puis, donc voilà, parce que je vois bien que c'est vraiment une pensée aussi là, du communautaire, de la nation, enfin, du nationalisme très riche. Alors comment est-ce qu'il se situe par rapport à, politiquement et intellectuellement, hein, par rapport aux problèmes multiculturalistes. Et puis par rapport à l'école de Francfort, parce que là aussi je vois quand même des similitudes très très fortes, quoi. Enfin, toute cette question sur rapport théorie pratique, le point de vue de l'émancipation, la tentative de chercher une possibilité, enfin de travailler sur le possible immanent. On voit plein de liens, un marxisme sur la culture, un marxisme par excellence orthodoxe. Alors, est-ce qu'il travaillait à l'école de Francfort? Est-ce qu'il s'en revendiquait? Est-ce qu'il avait des contraires critiques sur ses contemporains? Enfin, voilà.
Moi, j'en rajoute un, c'est Castoriadis.
Oui.
Il a dit que c'était son ami.
Il y avait des... Oui, il y a des références quand même.
Moi, j'aimerais bien que tu fasses le lien avec Castoriadis. Qu'est-ce qu'il emprunte de Castoriadis?
Et moi, je vais préciser la remarque de Rode. Je pense que, notamment dans l'école de Francfort, là, tout ce que tu as dit sur la fin... C'est quand même assez proche de Marcuse, et notamment la question de la nouvelle sensibilité. Et c'est peut-être assez une question. Moi, je me demande comment est-ce qu'il pense cette nouvelle sensibilité justement par rapport à Marcuse, et comment est-ce qu'elle est pensée par rapport à la question de l'infrastructure. C'est-à-dire est-ce qu'elle est pensée comme étant amenée à devenir une, comme dit Marcuse, Gesellschaftliche Produktivkraft, c'est-à-dire un fondement, va devenir quelque chose de l'ordre de l'infrastructure ou pas?
Taylor, Francfort, Castoriadis.
Moi, je ne suis pas un spécialiste de Ryu. Hein. J'ai lu spécialement par rapport J'ai fait un truc un peu plus intensif par rapport à l'exposé que j'allais faire. Mais moi, je connaissais surtout une partie des travaux que Ryu avait fait, notamment, bon, il a très peu écrit sur les études culturelles. Il a écrit un petit bouquin avec une anglophone début des années, au tournant des années 80, d'où vient justement ce pessimisme par rapport à l'atomisation, l'américanisation, à l'impact des industries culturelles, l'américanisation de la culture, puis évidemment cette idée d'impérialisme culturel. Donc ça rejoint, cette idée d'impérialisme culturel est très proche de ce qu'on a déjà parlé précédemment, qu'on retrouvait du côté latino-américain. Alors, c'est-à-dire, on voit aussi, c'est intéressant parce qu'on a un peu l'idée de dépendance, hein, le terme dépendance et le terme impérialisme ou anti-impérialisme. Comme on revient avec ces catégories-là, avec ces termes-là, comme on le retrouve en Amérique latine. C'est des traits qui se rapprochent. Pour ce qui est de Taylor, je ne m'avancerai pas beaucoup, mais je pourrais peut-être avoir un élément d'explication. Taylor, c'est le multiculturalisme. Le trudeauisme, c'est le multiculturalisme. La pensée multiculturaliste, c'est noyer la culture canadienne, française ou québécoise dans le multiculturalisme. Donc, l'idée que la culture canadienne, française, mais québécoise, on peut la mettre dans le travail. Au nom de québécois, je vais utiliser le canadien français parce que c'est des termes de l'époque, mais québécoise, est ni plus ni moins plus important que les autres cultures. Donc, finalement, le multiculturalisme, on peut penser que les cultures de, vous savez, de la caricature, c'est de dire oui, la culture des immigrants hongrois ou ukrainiens de l'Ouest canadien est tout aussi importante que celle des Québécois. Et c'est-à-dire que c'est ne pas considérer aussi l'hypothèse qu'il y a deux peuples fondateurs. On pourrait dire qu'il y en a plus que deux, parce qu'il y a quand même les peuples autochtones qu'on oublie dans cette équation-là. Mais il y a donc les deux peuples fondateurs, anglophones et francophones. Et donc de deux grandes cultures. Donc l'idée du multiculturalisme est une idée qui était défendue par Trudeau, donc nécessairement très politique, très représentatif de cette structure fédéraliste contre laquelle, finalement, Ryu est contre. C'est-à-dire cet amalgame. Donc, la création d'un pays, du Québec, c'est une réaction aussi à la fédération. Puis, amalgamer, finalement, toutes les cultures, y compris les cultures les plus importantes. Donc, il y a une minorisation de la culture québécoise dans le multiculturalisme. En tout cas, c'était le projet, ce pourquoi finalement Trudeau était pas très aimé par les intellectuels, les résistants, les nationalistes québécois. Puis ça, je ne parle pas du nationalisme de droite, hein. C'est vraiment où des socialistes et y compris nationalistes par rapport à Trudeau.
Mais est-ce qu'il en parle ou pas? Est-ce qu'il y a des textes de nous sur...
Non, je n'ai pas repéré. J'ai essayé de voir un peu dans les fois parce que je n'ai pas la connaissance de tous les textes. Hein. C'est pas, bon, je me suis attardé à certains textes spécifiques. Mais bon, tu t'en de la peine?
Non.
Et puis, si je peux me permettre aussi, il y a une vraie tension entre le multiculturalisme fédéral et l'interculturalisme québécois. Les Québécois, ils défendent l'idée d'interculturel.
Oui.
Et politiquement, ça a un vrai ancrage entre le multiculturalisme qui est basé sur la reconnaissance de toutes les cultures, mais avec l'anglais qui est central, tandis que pour l'approche interculturaliste, interculturelle, qui a un vrai agenda politique pour la province du Québec, c'est fondé sur la langue française et sur une autre approche de comment ensemble on peut se définir comme étant québécois.
Oui.
D'où toutes les dernières problématiques d'essayer de définir qu'est-ce que c'est d'être québécois.
Non, c'est très bon. Oui, c'est tout à fait intéressant. Non, c'est tout à fait juste. Tout à fait juste. Donc, c'est vraiment... oui, tout à fait. Parce que le projet multiculturaliste, il est critiqué, y compris même par des gens de d'autres cultures qui migrent au Canada. Il y a un des livres les plus intéressants sur le multiculturalisme, contre le multiculturalisme, c'est Neil Bissontat, qui est un écrivain, qui a consacré et qui... je ne sais plus de quelle origine il est. Je sais que, je pense que c'est pas jamaïcain ou quelque chose comme ça. Bon, il vient des Caraïbes, mais il est de descendance indienne. Et parce que justement, il est venu s'établir au Québec à cause de ce respect des cultures dont tu parles, l'interculturalisme, c'est-à-dire que c'est l'idée de. Le multiculturalisme, c'est comme le fameux melting pot. Alors que l'interculturalisme, c'est il y a une culture québécoise qui réunit toutes les différentes composantes interculturelles. Ouais. Donc, dans le respect des cultures.
C'est intéressant parce que vous, vous avez un point de vue vraiment beaucoup plus aussi de ce point de vue-là, avec une connaissance du pays, de son histoire. Moi, j'ai une connaissance de Taylor du texte et je ne le vois pas comme ça. Enfin, moi, théoriquement, parce que je ne connais pas le Québec et le Canada, je suis jamais allée là-bas.
Oui.
Mais moi, tel que je lis Taylor, je ne vois pas son multiculturalisme comme quelque chose d'aussi.
Mais c'est que finalement.
En fait, je trouve que ces textes sont en fait assez forts et ils ne sont pas du tout en idée de noyer.
C'est que finalement, c'est le truc là-dedans, c'est quand une pensée théorique devient utilisée dans le politique. Et ça, c'est là où on voit très bien la transposition de la question du multiculturalisme.
Oui, elle transforme la pensée elle-même.
Exactement. Elle devient un outil. Donc l'idée là-dedans, ça devient un outil d'intégration du Québec comme une composante culturelle comme les autres dans la fédération. Donc, et c'est une arme à ce moment-là pour contrer les vérités du Québec dans son autodétermination, dans la prise de pouvoir, etc., donc se donner de ses propres pouvoirs. Et parce que finalement, les pouvoirs sont centralisés. Le seul pouvoir, en fait, un des seuls, c'est le système d'éducation. Et c'est quelque chose qui est... Parce que c'est de l'ordre de la culture. Parce que tous les autres aspects, par exemple, je vais prendre un exemple qui me concerne parce qu'on est en com ou en culture communication, toutes les lois sont fédérales quant aux licences, d'émission, de la radio, de la télévision, l'attribution, etc. etc. Donc, tout ce qui est communication, télécommunication, radiodiffusion, ce sont des lois fédérales et qui sont imposées partout. Les provinces, et même les velléités dans les années 70, grosso modo, de récupérer un certain nombre de ces pouvoirs-là, de ces pouvoirs de réglementation, ont été invalidés. Donc c'est tout à fait, on voit très bien cette idée. D'ailleurs, Charles Taylor, Gérard Bouchard, puis Charles Taylor ont été président d'une commission sur... l'accommodement raisonnable. Ouais, c'est ça. Et c'est ce poste si le rapport n'a pas été vraiment chaudement accueilli, pour le moins. Parce que c'était comme... Il y avait comme une sorte d'abstraction par rapport à l'histoire, un peu à l'histoire des idéologies. D'ailleurs, dans ce contexte-là, moi, je me pose des fois des questions, tu vois, à partir de personnes comme Rioux, si Rioux avait été là, comment aurait-il réagi? Quelle analyse il aurait apporté? Certainement que ça aurait été très riche. Mais on a tendance à énormément oublier
Le livre de Taylor, politique multiculturelle, politique de reconnaissance, il part en 92, donc c'est l'année où...
C'est ça, lui-même.
Donc, c'est ça. Il n'a pas une connaissance de ce travail.
Non, c'est ça. Ouais. Puis en même temps, quand je regarde ça, je pourrais me poser une question aussi par rapport aux références. Quand il se dit matérialiste culturel, j'essaie de fouiller un peu les références, par exemple, l'école de Birmingham, William et d'autres. Par contre, Marcuse, oui, parce que Marcuse, il a fait des entrevues avec lui, il a échangé avec lui, il discute des textes de Marcuse, oui. D'ailleurs, je pourrais te référer éventuellement. Il avait fait un article, et c'est, 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 euh, de ce côté-là, Rioux a été un vulgarisateur parce que il y avait une revue qui s'appelait Force, qui était la revue qui était financée par l'Hydro-Québec. Hein, alors, ça s'appelait Force. Bon. Et Rioux a fait quelques articles avec certainement avec Marcuse, mais avec Edgar Morin. Avec, et donc, c'était étrangement des.
Numéro 22, 1973.
73, voilà, c'est ça.
Entrevue avec Herbert Marcuse.
C'est ça. Donc, il était aussi un vulgarisateur, un passeur. C'est-à-dire que, étrangement, quand j'écoutais Rajmig l'autre jour, son idée de national populaire, je trouve que ça lui c'est comme une sorte de. Il représente un peu une forme d'image comme ça de national populaire, tu sais, dans le sens qu'il est très, aléatoire, très ancré, et un respect de ce point de vue-là du peuple québécois, de ses racines, de sa richesse, etc., très très important. On voit d'où il vient. C'est très enraciné, ça c'est certain. Mais Marcuse, oui. Castoriadis, oui. Lui, c'est. En fait, c'est autour, je l'ai noté, c'est autour de la notion d'imaginaire social. C'est autour de ça. Même dans l'essai de sociologie critique, je vais potasser un peu plus, c'est essentiellement autour de ces questions-là qu'il raccroche. Mais il cite très peu quand même Castoriadis, il développe très peu.
Est-ce qu'il reprend la critique de Marx par Castoriadis ou pas?
Non, il ne se réfère pas à ça nécessairement. Non.
Parce que c'est marrant, on aurait pu penser que c'était justement ça qui.
Oui. Mais c'est l'écriture, finalement, l'écriture de Rioux, c'est que comme là, il y a un texte là-dedans où il polémique quand même avec Marcuse, d'un certain point de vue, sur un certain nombre d'idées. Mais ça, c'est très spécifique sur des questions que je n'ai pas travaillé ici, parce que c'est un survol, c'est très expéditif. Hein. Je suis obligé de surfer un petit peu sur un certain nombre d'idées sans rentrer dans le détail. Parce que vous voyez, là, quand même, c'est une partie de ces écrits de Rioux. Ce n'est pas tous les écrits, hein. C'est pas tous les textes. Hein? Hein? De quoi?
Oui, non, c'est une partie, oui.
Oui, c'est ça. Et c'est. C'est même là, Taylor, non. Et puis, pourtant, il devrait être. Il aurait pu être un.
Oui, mais en même temps, avant 92, il avait écrit.
Oui.
Au moins, enfin, ben, si, deux, trois livres, peut-être que vous ne connaissez pas, il n'y avait pas encore cette question.
Oui, c'est ça. Peut-être aussi, il y a des cloisonnements, tu sais. Il y a des cloisonnements.
Puis, il n'y a pas une référence au marxisme. Je crois que Taylor, c'est pas une
penseur matérialiste. Non, c'est ça. C'est peut-être ça aussi. Un philosophe anglophone. Il y a probablement des frontières. Oui.
Moi, je me demandais, en fait, avec Dumont, un peu,
oui.
Si tu avais vu des parallèles, évidemment, j'imagine que oui. Ou peut-être nous situer un petit peu.
Je connais moins
par rapport à son approche de la sociologie comme science de l'idéologie et du sujet historique, un peu justement, il y avait ce débat entre les idéologistes et les matérialistes dans les années 70, où Rioux et Dumont étaient justement
précisément
au centre de ce débat-là. Et, je ne sais pas, peut-être, parce que moi je connais plus Dumont en l'occurrence que Rioux.
Hein. Ah, rattache donc, qu'est-ce que tu connais de Dumont à Rioux?
Moi ce qui est intéressant, je trouve, c'est un peu l'inverse où Rioux il a été plutôt positiviste, il s'est intéressé davantage à ces questions idéologiques, contrairement à Dumont qui était davantage philosophe et qui s'est progressivement intéressé à la culture avec sa fameuse approche culture première,
oui.
Culture seconde,
etc. Oui, c'est ça.
Et c'est vrai qu'il y avait, je trouvais, cette idée de société globale que tu as évoquée, bon, voilà, du coup, c'est cette étude systématique d'une société globale avec cette idée de sociologie comme science de l'idéologie. Bon, voilà, je me demande
oui,
si tu connaissez aussi un petit peu.
Non, pas assez, pas assez. Mais tu soulignes quelque chose d'intéressant parce qu'effectivement, Priou, dans les premiers temps, avait une position effectivement un peu plus positiviste. C'est pour ça peut-être qu'il critique autant à part après à cette idée de vraiment créer une science, de tout est, avec une très grande prétention d'expliquer tout. D'ailleurs, dans ses premiers, dans ses monographies qu'il faisait, il avait vraiment un projet ambitieux de tout expliquer par l'étude de chacun des fragments de la société, puis une sorte de totalisation possible, dans une image d'une société globale. C'était assez un peu utopique de ce point de vue-là, mais par contre, il partait de ce qu'il connaissait très bien et ce qui l'intéressait aussi. Et ce qui la force probablement de Ryu, c'est justement d'avoir fait ces terrains-là, de connaître le Québec. Donc, de connaître la culture qu'il défendait. Et donc, de connaître aussi en profondeur, un peu partout, ce qu'était le Québec. Ce qui n'est pas, c'est pas vrai de tout le monde. C'est pas vrai de tout le monde. Parce qu'on a une vue assez partielle de ce qu'est le Québec, finalement. De où on nous sommes, sur le territoire, de qui nous sommes, etc. Et ça c'est très marqué chez nous, de ce point de vue-là. Donc cette préoccupation de bien connaître les fondements, ça veut dire. Mais ça, c'est par rapport à Dumont. Mais Dumont, lui, c'est l'aspect... Tu dis que c'est l'inverse, sa trajectoire est plus l'inverse.
Quand on regarde un petit peu aussi son parcours, davantage même, il a commencé par la théologie, et puis progressivement, il s'est intéressé à ces questions idéologiques pour en arriver à même presque une approche plus anthropologique sur les questions de culture. Il a fait partie aussi des penseurs de la Révolution tranquille. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, dans les années 70, il y avait un véritable débat entre les idéalistes et les matérialistes.
Du monde, tu parles. Oui. Oui. Non, c'est. Mais c'est. Oui. Mais c'est toujours. Je pense que un des aspects qui est un peu difficile à suivre chez Ryu, en tout cas, c'est un sentiment à la lecture, c'est toujours ce va-et-vient entre, évidemment, la théorie, sur quoi il réfléchit et tout ça, et son action politique, ses interventions, etc. C'est un peu difficile à concilier. D'ailleurs, le fait, par exemple, dans l'essai de sociologie critique qui s'interroge sur ces aspects-là, il s'interroge essentiellement du point de vue de la sociologie, de sa pratique de sociologue, mais pas nécessairement de personnage politique, parce qu'il devient un personnage politique à quelque part. Il est devenu éventuellement conseiller du Parti québécois, sans être un idéologue comme tel, il a accompagné ce parti-là. Il participe de la fondation du Parti socialiste du Québec, même si ça n'aura pas une très longue vie. De la même façon, il préside des commissions, même quand on ne veut pas le voir là, la commission qui a présidé sur les arts, il a été plébiscité quasiment pour prendre la présidence de ça, parce qu'on ne voulait pas le voir là. Alors donc, c'était une figure politique aussi, qui était très inspirante, notamment chez les étudiants. Marcel Fournier, quand il parle du texte sur ses remarques sur la sociologie et tout ça de 69, il a vraiment un impact important. C'est quelqu'un qui est bien articulé, mais aussi qui n'a pas une langue de bois comme universitaire. Donc, il sait bien communiquer ses idées et en même temps, on le reconnaît comme un homme du peuple, entre guillemets. T'sais? Pas seulement quelqu'un qui est dans les sphères intellectuelles. de par sa provenance d'Amqui, de par sa connaissance du Québec, de sa manière de parler du Québec, de la culture, ça change de tout au tout, d'une vision essentiellement abstraite. Et c'est ça qui peut-être faisait sa force comme personne. Il y a quelque chose d'intégré depuis très très longtemps. Donc, c'est une construction à double, comme double entrée. Là.
Est-ce que l'idée d'indépendance nationale n'est pas, je dirais, contrariée par l'avènement d'un multiculturalisme du fait d'une population étrangère quand même assez importante au Québec? Indépendance nationale, sachant qu'il y a un multiculturalisme de fait, est-ce que ça ne pose pas problème?
Il y a une dialectique là-dedans, parce que, par exemple, ça dépend des immigrations. Nous, par exemple, les Chiliens qui sont venus au Québec suite au coup d'État au Chili, énormément qui sont restés, mais ce sont des gens qui ont d'un point de vue, adhéré à la question du Québec. Il y a même
Ils sont assimilés, vous voulez dire.
Donc, d'un point de vue politique, il n'y a aucun problème avec la question nationale, puis les luttes pour l'indépendance, l'autodétermination, tout ça. Donc, par contre, d'autres types d'immigration vont être plus assimilés, par exemple, au milieu anglophone. Et d'ailleurs, c'est toujours les groupes ethniques, pour les francs au sens large, qui sont beaucoup plus fédéralistes en général. Parce que eux, contrairement, ils arrivent au Canada. La terre d'accueil, c'est le Canada. Donc, on devient citoyen canadien, on ne devient pas citoyen québécois, on est citoyen canadien. Donc, il y a toute une symbolique très, très importante. Pour les gens, c'est pas le Québec, parce qu'ils disent si je peux pas rester au Québec, je peux aller au Canada en général. Il n'y a pas de. Ils sont au Canada. Par contre, une chance qu'a eu la loi 101 qui a préservé la langue française, parce qu'effectivement, à cause justement de l'immigration, et les gens disaient pour avoir un travail, il fallait parler en anglais. La langue de travail était l'anglais. Moi, je me souviens, mon père, il travaillait en anglais, alors qu'il y avait énormément de Québécois qui étaient des gens. Il suffit d'avoir un boss en anglais, un anglais, puis tout le monde parle en anglais. C'est encore le cas aujourd'hui. Bell Canada, qui est une grande entreprise de télécom, les choses se passent presque essentiellement en anglais, alors que c'est une entreprise canadienne. Puis ce sont principalement, par exemple à Montréal, des gens qui parlent tous, une bonne majorité en français. Il suffit d'avoir un anglophone et tout le monde passe, et toutes les communications sont en anglais. Et ça reste encore, quand on disait effectivement à une certaine époque, il faut comprendre, en fait, c'est très, très expéditif là, ce que j'ai apporté, parce que pour comprendre, par exemple, les années 70, tout le mouvement de libération du Québec, qui a été violent jusqu'à un certain point, dans la question, c'est pas banal le truc de Rioux, à savoir classe ethnique, classe sociale, parce que finalement, il y avait cette imbrication des deux. Effectivement, les syndicats combattaient les patrons anglais, et il y avait parce que le capital était entre les mains des anglophones. Il y avait une bourgeoisie, c'était le lien, finalement, il y a un film qui est très intéressant qui s'appelle « Je me souviens ».« Je me souviens », qui est la devise de la province de Québec. « Je me souviens », un film de Marc-André Forcier. Très beau film. Et puis, justement, ça se passe dans des années de la grande noirceur. C'est l'histoire d'une famille, mais on voit toute la trame rien. C'est-à-dire, d'une part, le clergé. D'autre part, les propriétaires des entreprises sont anglophones. Puis on voit toute la bourgeoisie canadienne-française, un peu petite bourgeoisie, des notables, hein, comme on disait, le curé, le médecin, le notaire, etc., etc. Ça, c'était... On n'était pas du tout dans l'économie. On n'avait aucune... Dans les années, ce qui était un des éléments de démarrage de la révolution tranquille, qui n'est pas nécessairement une révolution culturelle, pas totalement. C'est, oui, une affirmation culturelle, mais aussi économique. Et c'est pour ça que dans les années 80, on parlait de Québec Inc. C'est-à-dire que l'État a favorisé l'émergence d'entreprises francophone d'un certain côté. Donc, le Québec, c'est donné. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas, moi, ce que vous connaissez comme Bombardier, ça part de Canadair. Bombardier, c'est des intérêts québécois. C'est du capital, on va dire, émergent du Québec. Aucun lien avec le capital anglo-saxon, etc. Donc, c'était un moment où, finalement, l'économie est devenue très porteuse. Il fallait créer des entreprises québécoises pour contrecarrer donc les entreprises américaines qui étaient là principalement. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des nationalisations. Les années 70, la nationalisation de l'électricité, ça veut dire qu'à ce moment-là, on boutait à l'extérieur des entreprises, des petites entreprises qui étaient réparties sur l'ensemble du territoire, qui étaient principalement américaines. C'est tout un mouvement. Cette nationalisation, c'est d'abord l'affirmation d'un mouvement économique aussi assez important qui va être soutenu par l'État, notamment par la Caisse de dépôt et de placement qui gère notre bas de laine, finalement. Et qui, c'est des milliards de dollars qui viennent en aide pour les entreprises. C'est pour ça que, finalement, c'est ce qu'on dit, la société québécoise, c'est une société tricotée, serrée, mais aussi beaucoup d'éléments... viennent à la fois en contradiction. Le livre, ils ont tout le recueil des textes de Rioux. Le titre, c'est « L'économiste comme le refus de l'économisme ». La culture comme le refus de l'économisme. Et c'est ça, à la fin de sa vie, il avait... ce qu'il pressentait, c'était cet économisme qui est très, très fort maintenant. C'est-à-dire que tout est pensé en fonction de la rentabilité économique. Et d'ailleurs, maintenant aussi, il est même presque difficile de critiquer les entreprises québécoises. T'sais, dans leur manière de travailler, de traiter les employés, etc. T'sais. Donc, ça devient cette fameuse classe ethnique. En ce moment, on a la classe ethnique au pouvoir, on a une bourgeoisie québécoise, puis d'ailleurs... qui suit peut-être l'actualité au Québec, là, la venue du grand patron de Québécois, Pierre-Carles Pénadeau, dans l'arène politique, pose très bien ce dilemme. C'est-à-dire qu'il y a une classe d'affaires, une classe politique qui veut l'indépendance du Québec, mais ça ne veut pas dire que ça va réjaillir sur les classes sociales. C'est un bel terme. C'est-à-dire que finalement, c'est d'ailleurs, j'avais un ami qui était au Parti québécois et je lui disais toujours, c'est bien beau de réunir les gens autour de l'indépendance du Québec, mais pour des gens qui n'ont pas cette histoire d'oppression, quand on est au Québec, on n'a pas cette sensation-là, on n'est pas dans un état policier, militaire, quoi que ce soit. Mais on n'a pas cette trajectoire comme des gens comme Rioux, maintenant on a cette mémoire-là, on l'a de moins en moins. Si le projet indépendantiste n'est pas accolé à un projet social, de transformation sociale, un peu comme Rioux le souhaitait, vous n'aurez jamais d'adhérents à l'idée d'autodétermination du Québec. Et c'est par ce biais-là, finalement, qu'on peut rallier les nouveaux arrivants, éventuellement. C'est-à-dire que en disant, oui, de lier l'autodétermination avec une société plus égalitaire, plus équitable. Donc, on peut se poser à l'heure actuelle, est-ce que l'indépendance du Québec, est-ce qu'elle va favoriser des classes, les classes des démunis, ou bien qu'elle va renforcer que le pouvoir d'une bourgeoisie canadienne, française ou québécoise maintenant, et des barons de l'économie, etc. Donc, la question que Rioux posait par rapport à classe ethnique, classe sociale, les contradictions entre les deux, ça peut encore être possible de l'appliquer, j'imagine. Il y a quelque chose là qui est intéressant. À savoir bon, si les jeunes sont la classe, l'acteur principal de la révolution, mais il reste quand même que pour l'époque, il avait quand même le flair de dans ce sens-là, il rejoignait Marcuse, parce que Marcuse a travaillé sur la jeunesse et c'était...
Alors je crois qu'on peut dire quelque chose, je viens de jeter un œil à l'entrevue avec Marcuse, il comprend quand même pas grand-chose à Marcuse dans ce qu'il dit, et Marcuse rectifie, etc., et même la présentation qu'il fait est un peu... C'est très caricatural.
Oui, c'est ça. Mais il y a un texte où il y a une discussion avec Marcuse, un autre endroit. Et comme je le dis, moi je...
Même si en effet ça reprend,
Oui, c'est ça. Mais toi qui es un spécialiste de Marcuse, moi je ne suis pas un spécialiste de Rioux, je ne défendrai pas les positions de Rioux, mais ça permet de placer Rioux peut-être de manière maladroite, mais c'est sûr que ça, on ne va pas dans le détail. C'est dans le détail que se précise la pensée. Hein. Ici, c'est vraiment à grands traits et c'est assez.
Mais quelque chose qui est tout à fait intéressant, je crois, c'est que, enfin, je ne sais pas, c'est une remarque un peu étrange, mais en étant finalement assez, comme tu as dit, il est nationaliste, mais pas pour un repli, etc., parce qu'en fait, il est finalement au carrefour de pas mal de, justement, de pensées, et qu'il a l'air d'essayer de synthétiser, en tout cas, tu vois, dans ce que tu as dit, tout ce qu'on a... Dans toutes les influences qu'on a essayé de relever, qu'on a cru relever là-dedans, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, justement, et c'est étrange de penser ça dans un nationalisme, enfin, je trouve, particulièrement indépendantiste, etc. Je pensais presque à l'idée de socialisme dans un seul pays, quoi, quand tu as dit que l'autogestion ne viendrait, enfin, n'était possible que avec une indépendance nationale du Québec, tu vois, ça fait un peu ça.
Oui, parce que finalement, c'était l'idée de dire. Oui, c'était comme si c'est d'associer, c'est qu'au fond, il voulait associer ce projet de socialisme, donc de transformer, avec l'autodétermination, utiliser le moment de l'autodétermination pour transformer la société. Tu sais, parce qu'il y a comme une sorte de rupture, là, qui pensait favorable. Or, à l'heure actuelle, si on pensait à l'indépendance, si on pense à l'indépendance telle qu'elle pourrait se faire maintenant, admettons, projetée, c'est pas sûr que cette rupture permettrait justement cette transformation de la société. Au contraire, probablement, ce serait comme on renforcerait les rapports sociaux tels qu'ils existent. Donc, c'est. Au fond, il faisait le lien entre, c'est pour ça que l'idée de socialisme et indépendance, c'est-à-dire l'autodétermination comme moment charnière de la transformation sociale, donc la transformation des rapports sociaux. Et c'était